Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Jacques Martin disait « Les enfants sont formidables ». Oui, mais il avait beaucoup de nounous, Jacques Martin. Parce que quand tu dois les élever toi-même, les gosses, comme notre invité Olivier de Benoît, c'est pas la même chanson. Olivier qui a en outre réussi l'exploit, cher à Julien Lepers.
Oh, oh oui, oui, c'est un 4 à la suite. Oui, ça c'est beau.
4 à la suite, c'est beau. Mais alors, la question est simple, vous êtes maladroit, vous êtes catholique.
Alors déjà, je suis le mari de ma femme, est-ce que je suis le père des 4?
C'est pas sûr.
Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, comme j'ai eu 6 frères, j'ai l'impression d'avoir une petite famille à côté.
Mais donc vous allez en faire 6?
Non.
C'est fini.
Ah non, c'est complètement fini. Non, c'est complètement fini. D'ailleurs, en ce moment, je regarde plein de techniques sur internet pour être sûr de plus jamais avoir d'enfants. Et d'ailleurs, il y a une méthode américaine qui préconise de se mettre nu et de s'approcher doucement d'un ventilateur en fonctionnement.
Mais non.
Ça sera pour ce studio, parce qu'il n'y a pas de ventilateur.
Ah non, on a bien compris. On est tous en âge.
Ça va mieux, là, ça va mieux.
Mais c'est aussi un rythme, les enfants, pour vos un rythme artistique, puisque si j'ai bien compté, c'est un spectacle par enfant.
Exactement.
Donc là, s'il n'y a plus d'enfants,
donc pour le cinquième, voilà.
Qu'est-ce qui va se passer?
Ma femme, j'ai déjà dit, parce que je voudrais revoir le public, j'ai dit à ma femme, j'aimerais bien avoir un cinquième enfant. Elle m'a dit, je ne peux pas parce que je suis trop âgé. Du coup, j'ai pourquoi pas faire appel à une mère porteuse. Et là, elle m'a dit qu'elle était contre le principe de l'insémination artificielle. Et je lui ai dit, mais pourquoi faire l'insémination artificielle? Faisons ça à l'ancienne. Faisons ça à l'ancienne.
Dans la nature, effectivement. D'ailleurs, je connais quelqu'un. Ouais. Et là, tout de suite, vous aviez le nom déjà. C'est, ça que c'est là qu'elle a eu la puce à l'oreille. Quand même. C'est Tatiana. Alors, attention, Olivier, on papote, on déconne, mais c'est un moment décisif de votre carrière qui va se jouer à présent. Face à vous, celle que vous allez maintenant affronter sur un test de culture G, car oui, ici, Varrock est à la fois Félindra et le père Fouras, ou plutôt, comme vous allez le découvrir, la mère foireuse. C'est l'heure du quiz. Un quiz, évidemment, qui va concerner les enfants. On peut donc en conclure que cette émission est tout à fait et tout sauf improvisée. C'est parti. Varrock, la chanson « Come as you are » du groupe Nirvana existe aussi en version berceuse pour enfants, vrai ou faux?
Oh, ça doit bien exister.
Réfléchissez, mon conseil.
Je vous donnerai ce conseil jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il y a plein de chansons comme ça qui sont adaptées en berceuse après. Enfin, pour les enfants.
Oui, donc, il y a plein de chansons, mais la chanson de Nirvana dont je vous ai parlé, est-ce qu'elle est adaptée?
Oui.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Eh oui.
Je pense qu'il se serait resuicidé s'il avait entendu.
Oui. Je préfère la version énervée.
Ouais. On préfère la version énervée. Ouais. Olivier de Benoît, oui, c'est moi. Que peuvent faire les enfants à l'âge de 5 ans? Ils peuvent sauter sur un. Alors, ça c'est.
Fuguer, oui.
On peut rajouter l'option fuguer.
Oui.
Ils peuvent sauter sur un pied. Ils peuvent mentir. Ou affirmer que concernant les masques, ils ne sont pas nécessaires pour tout le monde parce que ce sont des gestes techniques précis et si on en a une utilisation qui n'est pas bonne, ça peut être contre-productif.
Alors moi, je réponds évidemment la troisième.
C'est ça, pardon. C'est évidemment pas ça. Les enfants.
C'est cloche-pied,
non? À l'âge de 5 ans. Mauvaise réponse. Oh, moins un point pour avoir donné une mauvaise réponse alors qu'elle n'était pas invitée à répondre.
Oui,
les compteurs sont remis à zéro. Ouais. Heureusement pour l'intérêt de ce quiz.
Ils savent pas mentir avant 5 ans?
Et non. C'est à partir de 5 ans qu'un enfant est capable de mentir. Certains, rares, peuvent y arriver à partir de 2 ans, comme vous, visiblement, Eva. Et on peut sauter sur un pied à partir de 4 ans.
Il y en a qui sont doués, non?
Je savais pas. Juste pour les masques, je voulais dire, je suis hyper content que tout le monde porte un masque dans Paris, parce qu'on peut plus dire que les Parisiens font la gueule.
Ah oui, c'est vrai.
On voit plus, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est les Parisiens, je trouve que tout d'un coup, c'est plus gay.
Ouais.
On devrait l'avoir toute l'année, non? Sans déconner.
Mais vous savez quoi? On va certainement garder les masques pendant un petit moment,
oui,
surtout dans les transports. Eva Rock, Olivier de Benoît, une question, 3 propositions, vous répondez tous les deux. Matt McMillan est un papa génial. Pourquoi? Parce qu'il a simulé un incendie dans sa maison et fait venir un Superman pour l'éteindre. Il n'a pas réussi, mais c'est le geste qui compte. 2. Il a enregistré les gazouillis de son bébé pour en faire une chanson de AC/DC. Ou il a fait le portrait de son enfant avec son premier caca. Si un jour je pensais prononcer cette phrase à la radio, je n'aurais pas écouté.
Je dis évidemment le 2.
Eh ben moi je dis Superman qui vient qui tente des
Superman qui vient éteindre un feu, mais le feu ne s'éteint pas et tout le monde meurt. C'est vraiment,
non,
c'est effectivement dans un quiz feel good, c'est effectivement
la réponse qui est possible.
Si vous aviez réfléchi avec votre tête, vous auriez eu la bonne réponse. C'est une mauvaise réponse, Eva, c'est la bonne réponse pour Olivier de Benoît. Écoutez,
mais non, mais les enfants,
le père fait plaisir à ses enfants, il fait cramer tout le monde et il a juste le temps de sortir lui. Et les pompiers sont jamais venus.
À sa décharge, la bonne réponse c'est souvent la plus stupide.
Merci.
Même l'invité sidéré par le niveau des bas. Là, ça veut dire que...
On s'est trompé de studio, non?
Je ne sais pas, je suis désolé. Il a recréé, ce papa, un titre d'AC/DC grâce au petit areux de son bébé. Et là, vous reconnaissez?
Thunderstruck,
exactement. Et il a attendu que son bébé fasse les 21 notes nécessaires, un hatchoum à la batterie, et hop, ça a donné ça. C'est vachement réussi.
Et on peut mettre le feu à la bande ou pas?
Oh, et pas. Olivier de Benoît, la chanson « Prendre un enfant par la main » a été enregistrée par
Yves Dutheil. « Pendre un enfant par la main » Parce que c'est Yves Dutheil, hein, c'est ça.
C'est une autre version. La chanson d'Yves Dutheil, « Prendre un enfant par la main » a été enregistrée par ce bon vieux Yves en langage des signes. Vrai ou faux?
Moi, je suis seul à répondre.
Ah, vous êtes seul.
Je réponds évidemment oui.
Évidemment non. En même temps, avec une guitare dans les bras et un enfant dans la main, c'était coton.
Oh, Eva Rock. C'est nul,
cette blague. Pour la main, elle est bonne.
Oui, ouais, elle est bonne. Ouais, pas trop. Eva Rock.
Oui.
Si vous chantez à votre enfant, il court le furet.
Ah oui, j'aime bien ça.
Il faut savoir que c'est une chanson anticléricale, vrai ou faux?
Ah, ça, c'est fort possible.
Mais je ne vous demande pas si c'est possible ou pas.
Je
tente de m'apporter une réponse concrète à la question.
Je dis oui, je dis oui.
Vous dites oui, mais pourquoi?
Je vous dis oui.
Cette réponse ne me suffit pas. J'ai décidé que ça ne suffirait pas. Qu'est-ce qui est anticlérical dans cette chanson?
Attendez, je m'essaie de me la remettre en tête.
Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit du titre. Il court le furet. Réfléchissez. Pensez à Almana Vermo 1959.
Ah, bah ouais, non, je suis nulle en.
En?
En contrepréterie, là, c'est ça?
En contrepréterie.
J'arrive même pas à dire
ça,
le mot, d'ailleurs.
Vous n'arrivez pas à dire le mot. C'est effectivement une contrepréterie. Oui, il court le furet. Ça donne quoi?
Bah, non, mais dites-moi. Non, mais franchement, j'ai jamais compris ce truc.
Il veut que tu le prononces.
Ah non, non, vous en avez assez des conneries sur moi. Demain, on arrête l'émission, de toute façon. Allez-y.
Tu remplaces le F par le C?
Oui, d'accord, curé.
Il court le furet. Eva!
Non, mais je sais pas.
Il fourre le curé.
Là, on reconnaît les bouffeurs de curé.
Ah.
C'est Nicolas Caron qui remporte le quiz. C'est Olivier de Benoît qui remporte le quiz, évidemment.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Sollicitez vos neurones d'une main, chatouillez vos zygomatiques de l'autre. Voilà la mission de l'équipe est sauvage. La folle compétition qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, en présence aujourd'hui pour tempérer un peu leur ardeur, du philosophe Frédéric Lenoir, qui publie un livre passionnant pour réussir à surmonter cette épreuve psychologique qu'a été le confinement, Vivre dans un monde imprévisible chez Fayard. Au fait, Frédéric, est-ce que vous pensez que le confinement était une période vécue globalement de la même manière pour tout le monde, ou qu'au contraire, au-delà des mètres carrés des uns et des autres, est-ce qu'on n'était pas égaux psychologiquement devant l'épreuve du confinement?
Il y a une double inégalité. Il y a l'inégalité sociale qui a été accentuée par le nombre de mètres carrés, si vous vivez dans une cité ou dans une maison de campagne, rien à voir. Mais la principale inégalité, enfin une autre inégalité très importante, c'est évidemment la psychologie de chacun et la manière dont chacun peut réagir face à la déstabilisation, face à l'enfermement. Il y a des gens qui adorent ça, même, je connais des gens même en appartement pas très grand qui ont été très heureux de pas sortir de chez eux. Et puis il y en a d'autres, c'était un cauchemar. Donc là, effectivement, chacun réagit avec sa sensibilité. C'est l'occasion, effectivement, des moments comme ça, de faire des changements de vie. C'est ce qu'on appelle généralement la crise du milieu de la vie. Mais là, ça a été pour tout le monde accélérateur. Et donc une occasion de se poser des questions parce qu'on prend du recul. Alors que quand on a toujours le nez dans le guidon, qu'on avance, qu'on est pris par les soucis pratiques, qu'on enchaîne le boulot, le machin, eh ben, on n'a pas de recul sur notre vie et on ne sait pas très bien si notre vie nous convient ou pas. Exactement.
Lui, par exemple, sachant qu'il a chez lui une discothèque comptant 40 000 vinyles et qu'il est fan de musique, son confinement, ça a été... Fred Goetti, vous dirigez Jazz Magazine et visiblement, vous êtes également très proche d'Eva, à en croire en tout cas cet enregistrement clandestin.
Et Fred, tu restes bien au fond.
Et aujourd'hui, tout puriste que vous êtes, vous daignez nous parler de votre passion secrète. Celle que vous essayez de ne pas trop évoquer dans les couleurs de Jazz Magazine. Cette passion inavouable, sinon vous êtes viré de votre propre magazine, c'est Sheila.
Sheila. The blonde goddess from France has arrived in America with all her feminine charm and a beautiful new album, produced by the people who brought you Chic.
Sheila, la déesse blonde française, est arrivée en America avec tout son charme féminin et un beautiful nouvel album produit par les people qui vous ont apporté Chic. Et oui, comme le rappelle cette publicité vintage made in USA, pour Sheila, en 1980, l'école est finie. Adieu les couettes, et s'il vous plaît, laissez ces gondoles à Venise une bonne fois pour toutes. Et voilà donc que Sheila prend le Concorde pour aller enregistrer son nouvel album King of the World à New York, la ville debout, la ville qui ne dort jamais et à peine remise du décalage horaire. Rendez-vous en studio avec les musiciens de Chic. Nile Rodgers et Bernard Edwards, les deux têtes pensantes du groupe, ont accepté, c'est incroyable, de travailler avec Sheila et lui ont préparé un 33 tours clé en main. Il n'y a plus qu'à chanter dessus. Bon, alors facile à dire,
ouais.
Mais pas si facile à faire pour une petite Frenchie pas vraiment habituée aux méthodes de travail américaines. Sheila a parfois du mal à saisir le sens des paroles, disons, surréalistes, écrites par Nile Rodgers. Exemple, Mayday, Mayday, au secours, Papa le Zoulou, X-Ray. Ou encore, tenez-vous bien, une ode aux cartes bleues. C'est pas évident pour une Française, les cartes bleues, au début des années 80, on s'en servait pas beaucoup. Avec mes cartes de crédit, je cite, je peux tout acheter et j'ai entendu dire qu'il vendait la Mona Lisa. Yeah, rock'n'roll, Sheila. Pardon, Sheila. Alors écoutez, j'ai un peu avancé dans le morceau. Ah voilà. Maurice Chevalier. Non, pardon, c'est là. Elle achète tout. Mona Lisa. Eh oui.
Tu connaissais pas ça, c'est dingue.
Alors, gros travail des choristes quand même.
Ah oui, c'est oui. Ça. Mais alors, Fred, bon, je suis pas aussi pointu que vous musicalement, mais 80, c'est pas l'année où les musiciens de Chic avaient aussi produit l'album de Diana Ross?
Mais oui. L'album d'Upside Down notamment, et l'album où la diva soul Diana Ross chantait sans embâge les vertus libératrices du coming out. Alors, vous vous rendez compte quand même, Nile Rodgers et Bernard Edwards étaient si inspirés à cette époque qu'ils pouvaient offrir à Sheila et à Diana Ross un album sur mesure. Alors évidemment, la presse ne fut pas toujours très tendre avec Sheila. Le très branché magazine anglais The Face avait écrit, je cite, « What a silk purse Chic made out of an ignoramus frog ». Je traduis, « Quel beau sac à main de soie Chic a fait en partant d'une grenouille ignorante
oh, ». C'est horrible.
C'est des jaloux, ces journalistes c'est britons. Bon. N'empêche que King of the World, l'album de Sheila and Be Devotion, dont on fête aujourd'hui le 40e anniversaire, est profondément marqué par le son Chic, mélange savamment dosé de disco, de funk, de pop et de rock. Et Sheila, on pourrait dire, était en quelque sorte l'ambassadrice française de Chic. Et puis, bien sûr, il y avait l'arme fatale, l'âme de persuasion massive, ces accords que Nile Rodgers avait eu la bonne idée d'enchaîner en laissant courir ses doigts sur le manche de sa guitare.
C'est ça qui a fait la force, le spacer.
Très beaux accords. Des accords presque jazz. Spacer, donc. Alors aujourd'hui, Spacer est entré dans la mémoire collective comme tous les autres tubes planétaires de Chic ou d'artistes produits par Chic. Spacer, donc, est aussi connu que Le Freak, Good Times, We Are Family, The Sister Sledge. Bref, depuis 40 ans, nous avons tous pris quelques rides, mais Sheila n'a pas tort d'affirmer que...
Spacer, on peut le reprendre tel quel. Ça ne prendra jamais une ride. Vous vous rendez compte que c'est toujours en vogue, c'est toujours dans le temps.
C'est vrai, c'est presque incompréhensible, mais c'est vrai. Vivre dans un monde imprévisible en écoutant Sheila peut être l'objet d'un nouveau livre. Merci beaucoup Fred Gouati. Je précise que par rapport à ce que je sous-entendais tout à l'heure, Eva Rock a mis les choses au point, il n'y a rien entre vous.
Il n'est jamais trop tard. Je vais m'occuper de ton cas, tiens.
Mickaël Lyon et Arnaud Ducré sont nos équipiers sauvages cet après-midi pour la sortie prochaine, toute prochaine, le 14 juillet, de Divorce Club. Arnaud, dans votre bio, il est noté que vous avez fait du gospel. Oui. Est-ce que c'est une petite vanne ou est-ce que vous avez vraiment fait du gospel?
Quand j'étais jeune, ouais, j'ai appris un peu à chanter, tout ça, voilà. Et donc on faisait des mariages, comme je vous disais tout à l'heure, avec des bagarres à la fin. Et des mariages. On a fait un mariage aussi, on s'est trompé, il y avait deux villes qui avaient le même nom. Et écoute-moi bien, qu'on s'est planté, mais voilà, erreur, en Normandie, il y a une autre ville qui était, et c'était, tu sais, Ivry-sur-Or, Ivry-sur-Mer, une connerie comme ça, tu vois, et là, fin, tu vois, et là tu fais et voilà, et en fait vous êtes où, on vous attend,
quelle horreur.
Bah on est arrivé en retard et on a fait le vin d'honneur, quoi. Donc le vin d'honneur, évidemment, la mariée n'avait plus, on sait à quel point un mariage c'est dur, c'est le grand jour. Et je me souviens, on avait hurlé. On a vu aussi des malaises aussi, c'était très drôle ça. Deux jours, t'avais la petite dame qui était là dans l'église pour remettre un peu les bougies. Et puis tu la vois arriver, et puis tout d'un coup elle fait un malaise. Bouton. Mais évidemment, les mariés veulent paniquer le moment, tu vois, donc ils sont là. Oui, c'est vrai qu'elle est partie en train de faire des spas. Et le curé qui est là, vous vous aimez, et vous allez vous unir. Elle est en train de se faire dessus, la dame.
De belles histoires avec voilà. Arnaud Ducré, de beaux souvenirs.
Vous devez faire troustiller, là, ça vous ira bien.
Arnaud, on l'a dit, vous chantez très bien, parce que vous faites semblant de chanter faux quand il le faut, quand vous êtes acteur, mais vous chantez très bien. Est-ce qu'un duo avec Fatal Bazooka serait possible?
Ah, j'aimerais bien,
ça serait intéressant. Vous, à la Human Beatbox.
Ah, ouais. Ah oui,
c'est, ah, mais ça, on l'a fait même, c'est ça, pendant la tournée.
Vous l'avez fait?
Ouais, gros, c'est Fatal Bazooka sur Europe 1. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars, écoute ça, représente le hardcore des montagnes en direct dans la Savoie. Savoie ou bien Mec, c'est le pôle Nord, gèle les grelots. Bordel, il fait plus froid que dans ton frigo. Un pied dehors, direct, ça pharyngite. La morbonnée, les microbes qui s'agitent. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur, je m'assure, je l'ai plus car on n'est pas venu pour jouer les papas poules. Mais est-ce que c'est mon gars? Faut te qu'elle coule. On t'aura pas tort à l'aigle, tort à l'époule. Faut te qu'elle coule, ouais. Faut te qu'elle coule. Assure de prendre le nez qui coule. Faut te qu'elle coule. Tu n'as reçu de l'escalade, mais même un peu de boule. Faut te qu'elle coule, ouais. Faut te qu'elle coule. Sauf qu'elle boule.
On va changer le...
Mais il y a beaucoup de Covid maintenant sur la planète Europe.
Comment c'est possible, excusez-moi, de vous souvenir de toutes ces paroles aussi bien
Mais ça fait quand même 20 piges que je la chante.
Mais vous la chantez tous les combien?
Tous les jours. J'ai continué à faire des concerts, des galas, etc.
Tout le temps, ça continue.
Mais ouais, bien sûr.
Waouh, parce que...
Mais vous l'avez déjà fait ensemble, ça?
Ouais, on l'avait déjà fait ensemble.
Non, mais attendez ce qu'il te regarde. Ouais.
Est-ce que nous, on te demande si tu mets des slips ou des strings?
J'ai la réponse. Bon, Mickaël Youn, un comédien qui se met à rapper, ça donne Fatal Bazooka. Mais savez-vous ce qui se passe lorsqu'un chroniqueur gastronomique se met à rapper?
Oh
eh bien, ça donne Snoop Doggy Bag.
Eva, t'es mon confidoit. Quand je te vois, je te boufferai bien la soca. T'es une geisha au nougat, vanille et chocolat. Shakira de la brouquette.
Bonjour Olivier Poul.
C'est honteux. C'est limite hashtag. Hein. C'est, alors là, il pourrait y avoir hashtag MeToo là-dessus.
C'était avant. Ah non, c'était après MeToo en plus. Bah, bravo Olivier Poul. Vous êtes un chroniqueur gastronomique, Snoop Doggy Bag. Et vous nous proposez cette semaine, Olivier, des recettes un petit peu légères pour nous préparer à la plage.
De veau.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Olivier?
Salut les amis, yo Fatal. On se retrouve quand tu veux. Et en attendant, mais sans la râper, je vais vous proposer une salade César parce que je ne clôture jamais une saison sans faire une salade César.
Allez, César.
C'est franchement l'un de mes plats préférés.
C'est un escroc, ce chroniquière. Une salade César. En chronique culinaire, salade César. Un œuf au plat avec du bacon.
Parce que t'as l'histoire de la salade César.
Non, parce que là, il n'a pas le
pain. Bah oui.
Il va aller que sur bas. Alors, on va prendre de l'iceberg, du poulet, de la sauce avec du parmesan et de l'ail. Et puis vous l'achetez d'ailleurs, allez l'acheter en supermarché. Il y a la Newman qui est très bonne.
Olivier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est bon?
Bah écoutez, non, je pense que c'est bon, hein, finalement. Je vous envoie quand même ma facture pour la prestation. Et puis je vais aller couper un peu de salade romaine. Je vais aller faire griller un petit morceau de poulet.
La sauce, je la fais
quand même moi-même.
Hein. Ah bah ouais, non, mais allez-y. Alors,
vous avez un petit conseil de pro quand même pour qu'elle soit différente, cette salade César?
Bah d'abord, c'est la sauce. Il l'a dit, on peut l'acheter, mais on peut surtout la faire soi-même. Et le secret, c'est la sauce. Alors moi, je vous donne mon secret de sauce. Et comme ça, Mickaël peut prendre note. Et la prochaine fois, bah, plutôt que sortir une sauce industrielle de son frigo, il pourra briller en disant qu'il l'a constitué lui-même. Alors vous allez prendre un œuf mollet. Œuf mollet, c'est 5 minutes, entre 5 et 6 minutes de cuisson. 4 filets d'anchois, 2-3 cuillères à soupe de parmesan, un demi jus de citron, du sel, du poivre. Vous mettez ça dans un blender et vous montez à l'huile d'olive. Ça prend à peu près 3 minutes. Et là, vous avez une vraie sauce de salade César qui se tient.
Vous mettez pas d'ail dans la sauce?
Ah non, moi, je mets pas d'ail.
Moi, j'en mets.
Alors, si vous voulez en rajouter, libre à vous, mais moi, j'en mets pas. Alors, en revanche, ce que je mets, c'est de la salade romaine, c'est du cœur de salade romaine, de la volaille qu'on va évidemment griller et qu'on peut servir froide ou tiède. Moi, je rajoute quelques langoustines parce que ça fait un petit air assez sympa.
Moi, je rajoute du caviar et puis je vous emmerde dans le pot.
Enfin, n'exagérons pas. Quelques croûtons de pain, du parmesan, des anchois. Et puis j'invite Fatal Bazooka à aller déguster, allez.
Merci beaucoup, Olivier. Snoop Dogg, votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 Podcast et on vous retrouve évidemment dans la table des bons
vivants. Comment on l'a agressé sur les langoustines. Puis je rajoute quelques langoustines, tout le monde dans le studio. Faisons n'importe quoi.
Tout le monde, mais surtout toi.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission où les stars se lâchent, parfois un peu trop, comme Arnaud Ducret lundi. Est-ce que dans les avant-premières, les gens viennent vous voir et vous disent « Moi aussi, ma meuf est partie avec mon cousin ?»
Non, dans le Nord, on a fait très peu de...
Aujourd'hui, c'est une de nos plus grandes actrices, Emmanuelle De Vos, qui nous accompagne pour fêter la sortie du film de Grégory Mann, Les Parfums. Vous avez déclaré récemment dans une interview, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai envie de creuser là-dessus. Vous dites « J'en ai ras-le-bol de faire des films tristes, j'ai épuisé mon potentiel dramatique, je n'ai plus envie de me faire mal, de pleurer devant une caméra, sauf si c'est pour un grand réalisateur. » Il y a quand même une, une vraie envie de votre part d'embrasser le registre de la comédie.
Oui, de le prendre à plein bras, oui. Ben oui, parce que c'est vrai que j'ai plus envie, oui, d'être dans des drames. Ça coûte trop quand même. Hein.
Ah, parce que quand on a du mal à sortir du rôle.
De plus en plus. J'ai de plus en plus de mal, ouais. Puis je sais pas, plus on vieillit, plus il faut sourire, quoi. Non, mais c'est vrai, quand on est jeune actrice, toutes les jeunes actrices sont comme ça, même dans les cours. On adore pleurer en scène, on adore ça, on travaille que des choses complètement, on peut voilà, éclater en sanglots. Il y a une sorte de masochisme un peu. Et puis maintenant, j'en ai assez, ouais. J'aimerais bien, après, voilà, on pensera pas forcément à moi.
Mais, vous recevez pas suffisamment de scénarios de comédie pour avoir.
Non, mais par exemple, Les Parfums, c'était déjà un petit pas vers quelque chose de plus léger. Qu'est-ce que je vais. Non, je vais faire un film bientôt aussi où le personnage, quand même, c'est une comédie dramatique, donc où il y a quand même un petit peu des passages rigolos. Mais bon, c'est très difficile aussi de trouver une comédie qui m'aille, parce que je suis pas, j'ai pas la vix comica, comme on dit, donc il faut vraiment que ça soit très adapté à moi, donc c'est compliqué.
Bah, l'appel est lancé aujourd'hui, François. En tout cas, il y a beaucoup de scénaristes qui vont peut-être faire du sur-mesure cet été, qui vont écrire un petit film. Mais François Florent, votre prof, vous disait justement en cours d'art dramatique, plutôt que de pleurer de me faire du Tchekhov, travaille le répertoire de Rosie Vart.
Oui, non mais il avait enfin, comme quoi, c'est un génie, quoi. Il savait très bien qu'à un moment, j'en aurais marre de pleurnicher. Mais voilà,
La réalité rejoint la fiction, ou en tout cas les intentions, parce que je crois que vous tournez avec Marthe Villalonga. J'ai vu des images sur Instagram. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Marthe Villalonga?
Elle joue notre maman dans un film de Pascal Elbé que Pascal vient de terminer avec Sandrine Kiberlin. Et voilà, on a tourné avec Marthe. Et j'ai appris une chose incroyable, c'est qu'elle n'a que 2 ans de plus que Guy Bedos.
Elle joue sa mère
Mouchi dans Un éléphant ça trompe énormément. Elle n'a que 2 ans de plus que Guy Bedos.
C'est incroyable.
Inouï.
Face à vous, Emmanuel Devos se dresse notre ultime concurrent du jour. Sa notoriété en construction, comme on dit dans les analyses marketing, fait que probablement vous ne le remettez pas. Il a l'habitude. La dernière fois, Louis Chédid aussi avait visiblement oublié qu'ils étaient très potes et qu'il était même aller chez lui.
Et alors moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais venu chez vous il y a quelques années pour la sortie d'un album.
Ouais.
Et j'en garde un très bon souvenir.
Ouais.
On avait passé un bon moment, non, c'est vrai ?
T'étais pas coiffé pareil.
T'étais plus fin. Alors, Emmanuel Devos, ma question est simple. Est-ce que vous avez passé de très bons moments avec Mathieu Charrier ou c'est la première fois que vous le voyez ?
Je ne pense pas, non.
Plein de bons moments. Il avait les cheveux plus courts. Mathieu, en ce mercredi 1er juillet, jour de sortie ciné, vous avez décidé de prendre le pouls, justement, du cinéma français.
Des salles, en tout cas. Déjà, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la rouverture des cinémas, il y a 1 million de Français qui sont retournés dans les salles en une dizaine de jours. Alors,
c'est beaucoup ou pas ?
C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que déjà, quand on voit les restaurants aussi qui ont du mal à faire revenir les gens, etc., ben, il y a quand même 1 million de personnes qui sont venues, qui n'ont pas eu peur de venir avec les gestes barrières, etc. Mais c'est vrai que comparé à une semaine classique, on fait entre 3 et 4 millions d'entrées habituellement par semaine en France.
Ah oui.
Évidemment, on est un petit peu en dessous. Donc voilà, il y a le côté positif, les gens reviennent. Mais pas encore assez.
Ils vont voir quoi ?
Alors, pour l'instant, majoritairement des films français. Quand on regarde le grand gagnant de cette ouverture des cinémas, c'est le film La Bonne Épouse, vous savez, porté par Juliette Binoche, qui était sorti avant le confinement, qui n'avait pas fini sa carrière et qui redémarre en tête des sorties de films. Suivi de De Gaulle aussi, dont on a parlé, porté par Lambert Wilson.
Et mais apparemment, il n'y a que Axel de Tarlé qui a vu De Gaulle. Il était seul dans la salle, nous a-t-il dit.
Mais bon. Quand même, les gens, c'est le deuxième film, je crois qu'il a fait 80 000 entrées. Alors là aussi, on est sur des jauges évidemment moins importantes que d'habitude, mais 80 000 entrées en une semaine, c'est pas mal. Et puis ça devrait se poursuivre avec des films français. On parle des Parfums, on parle aussi de la comédie de Michael Youn. Il y a aussi un autre film qui s'appelle Tout simplement Noir, qui est très attendu.
Ah oui, génial, la comédie, là. Ouais.
De Jean-Pascal Zadi, qui est très attendu. Donc voilà, Terrible Jungle aussi à la fin du mois avec Catherine Deneuve et Vincent Dedienne. Donc les films français, eux, seront bien là pour attirer des gens et tenter d'attirer des gens en salle.
Et normalement, l'été, il y a les blockbusters
et
américains.
Voilà. Et là, c'est tout le problème.
Et je suis obligé d'aller voir avec mon fils.
Et c'est là que le bât blesse parce que.
Bah, vous allez faire autre chose.
Et là, tous les blockbusters ont été repoussés.
Mon pauvre
tous
choupi,
les blockbusters.
Pas de blockbuster pour lui cet été.
On avait commencé par repousser les Marvel, Fast and Furious numéro 9, tout cela repoussé. On espérait que Mulan de Disney allait sortir vers la mi-juillet, finalement repoussé à fin août. On espérait que Tenet de Christopher Nolan allait sortir à la mi-juillet. Repoussé aussi à fin août, parce que le problème, c'est que c'est des films qui, pour fonctionner, ont besoin de sortir dans le monde entier, notamment aux États-Unis. On sait que la situation épidémiologique est compliquée là-bas. Et donc, ils ont tous dit, on repousse ces films-là. Alors, pourquoi c'est problématique ? Parce que, évidemment, les gens vont aller voir les films français, et c'est très bien, mais il faut aussi des films américains pour attirer énormément de monde. Quand vous voyez que l'année dernière, le Roi Lion, vous savez, version image réelle, même si c'était des images de synthèse, ça avait attiré l'été dernier 10 millions de personnes en salle, à lui tout seul, juste sur ce film-là. Donc ça, ça va être très très compliqué à compenser malgré des comédies françaises, malgré le film comme Les Parfums, etc. Ça va être très compliqué pour les salles de cinéma.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de films dans les salles françaises
cet été ? C'est ce que craignent effectivement les exploitants de salles. Alors le CNC a dit justement aux distributeurs de films...
Oh, ils ont qu'à ressortir la grande vadrouille.
Alors, vous croyez pas si bien
on
dire.
On ira tous voir les Tontons Flingueurs.
C'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont refaire effectivement des sélections un peu patrimoine pour revoir comme ça des grands films de cinéma. Oui, c'est une bonne idée, mais malheureusement, ça n'attirera pas les 10 millions de personnes qui vont voir Le Roi Lion. Alors, le CNC a dit on va augmenter nos aides aux producteurs et distributeurs qui sortiraient leurs films cet été, films français, pour essayer de remplir les salles. Mais le problème, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moins de films dans les salles, ça veut dire moins d'argent pour le CNC et tous les organismes qui aident au financement des films. Donc, ça veut dire probablement un petit peu moins de tournage par la suite.
Donc moins de tournage,
donc moins de films, donc moins de spectateurs. Vous voyez, malheureusement, ça peut être compliqué.
Sauf... votre honneur, que vous nous aviez dit pendant l'année que parfois il y avait trop de films qui sortaient.
Oui, mais alors c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a trop de films qui sortent, ça c'est un long débat. C'est-à-dire qu'effectivement, en moyenne, il y a une vingtaine de films qui sortent, mais en réalité, quand vous regardez, il y en a 2, 3, 4 chaque semaine qui attirent des gens, oui. Et c'est quand même des films dont on sait qu'ils vont attirer des gens en salle. Donc effectivement, la difficulté peut-être que ça va supprimer quelques petits films qui sortent en salle pour des sorties techniques, comme on dit. Mais il y a beaucoup de gros films qui ne vont pas se faire ou qui vont être repoussés. Et derrière, voilà, il ne faut pas oublier qu'on a aussi tout un système qui protège le cinéma, qui protège nos salles, et c'est un système qui est fragile. Donc si ce système-là s'effondre, il y a quand même toute une économie avec des centaines de milliers d'emplois qui est menacée aussi derrière. Ce n'est pas juste la beauté du cinéma.
Emmanuelle Devos, en tant qu'actrice, est-ce que, si admettons qu'il y ait une deuxième vague, hein, on touche du bois, il n'y en a pas en studio, mais est-ce qu'à un moment on va se poser la question, en tant que les acteurs et actrices vont se dire, on va plutôt accepter des rôles dans des fictions, dans des séries qui ne seront pas impactées puisqu'elles sont, tout le monde regarde Netflix, plus que dans des films. Est-ce que c'est un calcul que vous pourrez faire ou pas du tout, ou jamais? Le cinéma avant tout.
De fait, on recommence à recevoir des propositions pour des films Netflix ou des séries, oui. Mmh. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il faut quand même faire confiance un peu. Moi, je suis toujours optimiste. Hein. Mais oui, c'est vrai que là, cet été, je tourne une mini-série pour Arte. Mais bon, c'était prévu avant. Hein, mais il va falloir... Mais je pense que les gens vont revenir en salle parce qu'on est en France et que les gens aiment les salles.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, nous ne serons qu'amour et tendresse universelle. Pour m'épauler dans ce qui est pour nous un véritable défi, ma fidèle complice Eva Rob, qui me semble aujourd'hui...
De bonne humeur, en étant constipée.
Pas de bonne humeur, mais de bonne humeur, c'est ça l'essentiel. Bonjour Eva.
Ouais, je suis de bonne humeur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé. Mais d'abord, accueillons donc cet invité qui nous incite à la sagesse. C'est un cerveau brillant, un esprit vif, Eva.
Si Bette Ndiaye est la porte-parole du gouvernement.
Non, mais on avait dit papacherie, c'est pas l'esprit aujourd'hui. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sociologue, et à l'issue de ces étranges mois qu'on a vécu collectivement, vous publiez chez Fayard « Vivre dans un monde imprévisible », un livre en forme de manuel pour nous aider à surmonter les moments difficiles et angoissants qu'on vient de vivre, en nous rappelant surtout qu'il faut relativiser.
Bah oui, je pense que c'est quand on vit une épreuve, une difficulté, ce qui nous aide, c'est voir aussi d'abord ce qui va bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, et puis d'essayer de... Alors relativiser, ça commence aussi par, excusez-moi, par quelque chose d'un peu dur, mais le nombre de morts, c'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on a 30 000 morts, c'est beaucoup, et chaque mort est à déplorer, mais tous les jours, vous avez 25 000 personnes qui meurlent de malnutrition, dont 10 000 enfants.
Et on n'en parle absolument pas. Sur les chaînes,
vous avez 400 000 personnes qui meurent de la malaria chaque année, c'est-à-dire autant que le coronavirus actuellement dans le monde, et ça ne fait pas une ligne. Donc il faut savoir qu'on est bouleversé parce qu'on est concerné, évidemment, c'est plus près que la malaria. Et en même temps, la mort, ça fait partie de la vie. Et je crois qu'il faut regarder aussi tout ce qu'il y a de beau dans la vie qui continue d'exister.
Il y a une maxime que vous aimez bien, maxime stoïcienne, qui est terrible pour moi. Car moi, quand il pleut, je m'abrite jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire dans la vie, j'ai l'impression.
Oui, alors Sénèque nous dit, vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Comme Nietzsche l'a redit d'ailleurs merveilleusement bien, en disant, il faut dire un grand oui sacré à la vie. La vie, c'est comme un morceau de musique. Il y a des moments ça va vite, il y a des moments c'est lent, il y a des moments c'est triste, il y a des moments c'est joyeux, il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables. Et ce qui fait que la vie est belle, c'est qu'on traverse tous ces climats finalement, tous ces moments. Et donc, plutôt que de prendre que le positif et de se fermer dès qu'il y a quelque chose de difficile, ouvrons notre cœur et vivons pleinement, quels que soient les moments agréables ou désagréables.
Nietzsche appelait ça La mort fatigue. C'est bien, Nicolas Carreau, vous avez une culture.
Europe 1, l'équipe sauvage.
C'est donc Frédéric Lenoir qui nous accompagne cet après-midi pour ce livre d'utilité publique, par les temps qui courent, Vivre dans un monde imprévisible chez Fayard. En fait, le monde a toujours été imprévisible, on l'avait juste un peu oublié, le Covid nous l'a rappelé.
C'est exactement ça. Effectivement, le monde est incertain, le monde, comme le dit le Bouddha, est impermanent, tout change, tout bouge, et donc imprévisible. Mais on a vécu quand même une parenthèse. C'est vrai que ces 30-40 dernières années, il y a une sorte de fiction de stabilité, je dirais, notamment à cause de la guerre froide. Et puis, finalement, on s'aperçoit que le monde redevient comme il a toujours été, c'est-à-dire furieusement imprévisible, incertain, chaotique. Et je pense qu'il faut apprendre à vivre ça, dans le fait que voilà, on vit dans un monde incertain et qu'il faut essayer chaque instant de le savourer, d'en profiter et de s'adapter. Et que dans chaque crise, j'aime bien rappeler que l'étymologie du mot crise en chinois, c'est deux idéogrammes, hein, danger, opportunité. Danger, oui, il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a un vrai danger, on peut mourir. Et puis opportunité, parce que dans chaque crise, il y a la possibilité de voir les choses autrement.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Alors, le confinement a été une épreuve pour tous, même si, comme on le disait, il a été plus dur à vivre pour certains, surtout vers la fin. Pierre Perret, notre invité mercredi, clairement n'en pouvait plus. Il regardait par la fenêtre, la bave aux lèvres, en s'exclamant
« Les filles Putain.
Ah oui, c'était dur. Oui, on a angoissé, mais maintenant, c'est l'heure de la résilience. C'est l'heure de renouer avec nous-mêmes. Parfois, c'est même peut-être la chance de faire le point et pour décider qui on veut être. Le philosophe Frédéric Lenoir, qui publie chez Fayard « Vivre dans un monde imprévisible », nous propose des clés pour réussir à faire, comme on dit, un bien d'un mal. C'est ce qu'il faut essayer de faire en ce moment.
C'est ce qu'on peut faire chaque fois qu'on vit un traumatisme. D'ailleurs, précision, c'est que j'ai écrit ce livre pendant le confinement. Ça parle évidemment de Covid, mais pas uniquement. En fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut se reconstruire après n'importe quel traumatisme. Ça peut être une grande maladie, un deuil, la perte d'un emploi, etc. Et donc, j'essaye de parler, de réexpliquer ce que c'est que la résilience. La résilience, c'est se reconstruire après un choc. Voilà. Le choc peut être individuel, collectif. Il y a besoin d'une résilience collective dans une société après une guerre, après une tragédie, après une pandémie. Et je montre qu'il y a plusieurs étapes dans la résilience. Il y a la résistance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, on refuse, etc. Et puis après, on est obligé de s'adapter. Et puis après, il y a une étape très importante que tout le monde ne fait pas, qui est la croissance. C'est en fait, on peut s'apercevoir qu'effectivement, ce qui a été vécu comme un mal peut être un bien. Et on le dira a posteriori, on ne dira jamais qu'on est dans la souffrance. Mais après coup, on se dira, mais finalement, ça m'a permis de changer, d'évoluer, de comprendre quelque chose. Et on le voit, on connaît tous autour de nous des gens qui ont traversé des grandes épreuves de vie, notamment des cancers, et qui vous disent après, je ne peux plus vivre comme avant. J'ai un autre regard sur la vie, j'ai changé des choses importantes, j'ai fait le tri dans mes relations, j'ai changé éventuellement d'activité. Et donc, bien souvent, la vie fait qu'une épreuve peut nous aider à grandir et à nous améliorer. Et puis aussi, ça peut nous aider à trouver un chemin qu'on n'avait pas vu avant, parce que finalement, on était trop le nez dans le guidon.
Vous êtes partisan de quelle branche philosophique? J'ai l'impression que vous êtes très stoïcien, mais peut-être du néo-stoïcien. Enfin,
je vois que la philosophie vous intéresse, ça me fait plaisir.
Oui, je suis passionné de philosophie. J'oublie tout le temps, donc j'en parle aux auditeurs, parce que je suis obligé à chaque fois faire des remises à jour.
Je suis spinoziste.
Spinoziste, d'accord.
Alors, donc, c'est vraiment le philosophe qui me parle le plus, mais Spinoza était lui-même assez influencé par le stoïcisme. Oui. Donc, je dirais que voilà, j'ai un parcours qui fait que je me suis d'abord intéressé à la philosophie grecque, mais autant Épicure que les stoïciens, parce que les deux me parlent autant pour des raisons différentes, même s'il y a beaucoup de points communs. Le point commun principal entre les deux, c'est l'ataraxie. C'est-à-dire le fait qu'il faut essayer de trouver, je dirais, le bonheur à l'intérieur de soi, à travers une sérénité, à travers une forme de détachement pour ne pas être en permanence dans des émotions qui nous submergent et qui nous ballottent au gré des événements extérieurs, pour essayer de trouver ce que Marc Aurèle appelle la citadelle intérieure, c'est-à-dire une harmonie intérieure qui fait qu'on vivra le mieux possible tous les événements extérieurs, quels qu'ils soient positifs, négatifs, etc., parce qu'on est en paix avec soi-même. Et donc, c'est l'idée fondamentale que le bonheur, il est d'abord en soi, dans le regard qu'on porte sur le monde, dans la manière dont on gère nos désirs, plutôt que d'attendre que les événements extérieurs nous soient favorables.
Le bonheur est en nous, Eva. Gérons nos désirs.
Mais
ça,
oui.
ça vous parle?
Ah, complètement. Mais je voulais vous poser une autre question, parce que vous vous êtes beaucoup intéressé aux religions.
Oui, bien sûr.
Quelle est la place de la religion dans toute cette réflexion que vous menez, notamment post-Covid?
Alors, 4 heures.
Non, la religion, je me suis intéressé à deux choses. La religion,
oui.
Mais la religion pour moi, c'est culturel. C'est un regard historique sur diverses formes culturelles. qui ont permis, je dirais, aux êtres humains de vivre en société avec des croyances qui les dépassent et des rituels collectifs qui permettent de vivre ensemble. Donc ça, c'est la dimension culturelle de la religion. Après, ce qui m'intéresse plus à titre personnel, c'est la spiritualité. C'est-à-dire l'intériorité de la religion, mais qui peut exister en dehors de la religion. On peut avoir une spiritualité laïque, c'est-à-dire simplement essayer de se poser la question « pourquoi je vis ?». Et dès qu'on se pose la question « pourquoi je vis ?», on a une dimension spirituelle. On réfléchit avec notre esprit sur comment orienter notre vie de manière raisonnable. Voilà. Donc la spiritualité, elle a cette dimension intérieure. Donc je dirais que par rapport à une crise, que ce soit le Covid ou que ce soit n'importe quelle crise, et évidemment d'avoir une vie spirituelle, ça aide, puisqu'on va s'appuyer pour les gens religieux sur une foi. Donc le fait de croire en Dieu, de croire qu'il y a un destin, etc., bah ça aide à vivre, hein, incontestablement. Il y a eu plein d'études qui ont été faites qui montrent que les croyants profonds, pas les croyants sociologiques, hein, pas les gens qui vont à la messe le dimanche ou à cause des voisins, ceux qui croient vraiment, ça les aide à traverser les épreuves de la vie beaucoup mieux que ceux qui ne le sont pas. Mais d'avoir une spiritualité tout court, comme on avait les stoïciens, comme les bouddhistes, Spinoza, etc., qui ne sont pas forcément inscrits dans une foi en Dieu, par exemple, ça aide tout être humain à surmonter les épreuves par son esprit. Et au début du livre, je parle de la pyramide de Maslow, la fameuse pyramide d'Abraham Maslow, qui nous montre quels sont nos besoins fondamentaux. Et lorsqu'ils sont satisfaits, on passe aux besoins supérieurs. Donc on part des besoins physiologiques. On a tous besoin de manger, de boire, sinon on ne peut pas vivre. Puis après, il y a les besoins de sécurité. On a besoin de se sentir protégé. Et puis après, il y a les besoins d'appartenance. On a besoin de se sentir relié. Puis il y a les besoins de reconnaissance, se sentir estimé. Et enfin, il y a les besoins d'accomplissement qui touche à la spiritualité. Eh bien, je pense qu'en en fait, il y a une chose fausse chez Maslow. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir tout ça satisfait.
Il ne faut pas que ça soit en pyramide.
Mais en fait, on peut partir de l'inverse. C'est-à-dire que le fait d'avoir une spiritualité peut nous aider à supporter plein de choses et donc à mieux vivre si on n'a pas assez de besoins de sécurité. Si on n'est pas satisfait assez dans ses besoins d'appartenance ou de sécurité, etc., la spiritualité peut nous permettre à supporter bien des choses. Et je prends un seul exemple, Nelson Mandela. Voilà un homme qui passe 27 ans en prison. Au lieu de ressortir en colère, détruit, dans la haine, pas du tout. Il ressort plein d'empathie, de compassion, prêt à pardonner parce qu'il avait une vie intérieure très profonde.
Frédéric Lenoir avait 4 heures pour sa dissertation. Il a tenu parole. Il reste avec nous sur Europe 1. Se cultiver gaiement sans non plus aller jusqu'à se démettre un neurone, tel est l'objectif de l'équipée sauvage. Car vous connaissez l'adage Eva, mieux vaut une tête bien faite
que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie.
Non, c'est pas ça la citation. Aujourd'hui, en compagnie de Maître Pierrat qui publie La justice pour les nuls aux éditions First, on continue de décrypter notre système judiciaire. Mais question d'actualité, Maître, on parlait tout à l'heure des Césars. L'autre affaire qui a excité peut-être un peu trop d'ailleurs les médias dernièrement, c'est l'affaire Griveaux. À la question comment gérer un scandale, vous répondiez ne jamais essayer de l'étouffer et le transformer en œuvre d'art. Est-ce que vous redirez la même chose à l'aune de ce qui est arrivé à l'affaire Griveaux, vu la défense du principal accusé?
On ne peut pas dire que tout le monde s'en soit sorti de façon glorieuse, oui, dans cette affaire et dans la défense. Mais ceci dit, moi, alors, j'ai un cas un peu à part. J'aimais bien Piotr Pawlenski comme artiste avant.
Ah merde.
Donc, oui. Alors, je suis un peu au songeur, évidemment. Je suis seul, un peu seul dans cette position, mais c'est quelqu'un dont je suis le travail, parce qu'aux côtés des Femen contre le KGB en Russie, il y avait des œuvres d'art intéressantes. Là, c'est juste consternant. Voilà. Oui, donc, et tout est consternant, de A à Z. Je ne vais rien dire de mal contre Juan Branco, parce qu'officiellement, on est au même barreau.
Ah oui, donc, vous
donc voilà, hein, j'ai une sorte de devoir de réserve déontologique.
Mais sur ce qu'a fait, ça, sur la décision de Benjamin Griveaux de se retirer de la campagne...
Il est marié à une avocate, donc je ne dis rien non plus.
Alors, Maître Pierre, on continue de feuilleter l'actualité et votre livre, La justice pour les nuls. Mais si d'aventure, quelqu'un devait écrire un jour Le journalisme pour les nuls, c'est elle. Face à vous, notre ultime concurrente du jour, actuellement en tête du championnat des journalistes européens, Anne Le Gall est une pro qui connaît ses dossiers sur le bout des ongles, avec une prédilection pour le pôle Nord, zone géographique qui n'a aucun secret pour elle, comme elle nous l'a maintes fois prouvé.
Parce que maintenant, et surtout au pôle Nord.
Oui, surtout. Alors, ce soir, vous nous parlez, j'espère de manière un peu plus claire, d'un projet fou dans l'Arctique.
Voilà, je vais articuler. Je vais vous parler d'un immense congélateur pour graines, effectivement basé en Arctique. Il faut l'imaginer, un bout bunker, un tunnel où il fait moins 18 degrés en permanence. C'est un tunnel enfoui sous la montagne au Spitzberg, donc à 1300 km du pôle Nord. Et cette arche de Noé végétale a été inaugurée en 2008. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, il y a eu réception dans ce bâtiment de 60 000 nouvelles semences venues du monde entier, donc qui vont être conservées pour les générations futures. Parmi ces semences, on trouve par exemple des graines de courge ou de maïs offertes par des Indiens Cherokee, puisque ce sont des plantes qu'ils aimeraient préserver parce qu'elles ont une valeur sacrée. On trouve aussi 27 semences végétales offertes par le
prince Charles, des primes vertes, des orchidées, des fleurs qu'il a collectées, notamment dans son jardin de campagne. Il y a aussi des cultures vivrières, du blé, du riz, un vieux pommier sauvage qu'on trouve en Europe et qu'on aimerait préserver. Et ce grenier mondial des semences donc contient aujourd'hui plus d'un million d'espèces. Il pourrait à terme en contenir jusqu'à 4,5 millions. Donc ce sont des petites graines dans des tubes à essai, dans des cartons et dans des caissons étanches, des caissons de couleur sur des étagères. Tout ça sous un bâtiment en fait quasiment invisible. On voit juste la porte d'entrée.
Alors c'est quoi ? C'est du survivalisme végétal ? C'est-à-dire que si jamais tout s'arrête, on va pouvoir replanter ces graines un jour et repartir ?
Alors c'est l'objectif. Alors soit on les replante, mais on ne sait pas combien de temps va durer le pouvoir de germination. Soit on conserve uniquement le patrimoine génétique végétal. En fait, ça vient en soutien des banques génétiques qui existent un petit peu partout dans le monde. Il y en a 1700. Effectivement, l'objectif, c'est de faire face au réchauffement climatique, à la baisse de la biodiversité, voire à certains dégâts causés par des conflits. Il y a eu récemment utilisation de cette banque dans le bon sens, puisqu'il y a des chercheurs syriens qui ont demandé à sortir certaines graines de ce frigo, de cette arche de Noé végétale, pour faire repousser une espèce qui avait disparu par la destruction de la banque génétique de la ville d'Alep. Donc voilà, quand on pense à ce que disaient des experts réunis ce week-end à Rome pour préparer la COP sur la biodiversité qui aura lieu en octobre, il y a aujourd'hui 1 million d'espèces végétales et animales qui sont en voie d'extinction, en danger de disparition. Donc l'idée de cette arche végétale, c'est vraiment de travailler pour les générations futures. Et les graines donc, continuent d'appartenir à ceux qui les déposent, aux États, aux associations. Oui. Ce qui se pose, c'est la question de la solidité de la structure. Elle est enfouie dans le permafrost, donc tout est gelé. Mais en 2016, il y a eu des infiltrations dans l'une des salles, puisque évidemment, le réchauffement climatique n'épargne pas l'Arctique. Il est même deux fois plus rapide en Arctique. Donc se pose la question de la durée de ce projet, mais le gouvernement norvégien a investi d'ailleurs 20 millions d'euros dans ce projet.
Emmanuel Perret, est-ce que le droit de l'environnement est en train de gagner du terrain ? Est-ce que vous avez des dossiers sur le droit de l'environnement ? Est-ce que vous sentez que ça monte ?
Il y en a partout, heureusement. Heureusement que c'est une question qui préoccupe le monde entier, la construction, tout un tas de choses. Moi qui fais de la propriété intellectuelle, je m'intéresse beaucoup au fait que des tribus ou les peuples autochtones restent propriétaires des semences. Parce qu'il y a eu des grandes OPA par des groupes internationaux d'agroalimentaires qui ont volé des semences de blé, de riz, qui se les ont appropriées, les ont déposées ensuite, interdisant à des populations
d'utiliser leurs propres semences.
Donc on a des famines en Inde qui ont été liées, ou en Afrique, qui ont été liées aux semenciers qui avaient privatisé des cultures traditionnelles. Donc je trouve très louable, cette initiative, cette façon. Il faut absolument sauver les semences, sauver les vrais propriétaires, pas uniquement les semences pour les donner demain matin à un industriel, et puis essayer de lutter contre pour sauver cette arche de Noé. J'y suis très 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 sensible. Moi j'ai été, dans une vie précédente, je ne suis plus candidat au municipal, donc le CSA ne nous rattrapera pas, mais j'ai été élu, et notamment avec Europe Écologie Les Verts, etc. C'est parce que c'était une question qui me semblait importante, extrêmement capitale, et c'était il y a 15 ans.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Il y a des films dont on attend la sortie avec une impatience simulée.
Mon nom est Clitoris.
Par exemple. Et puis, il y a les films qu'on attend vraiment avec impatience. Divorce Club arrive en salle le 14 juillet. Yeah. Michael Youn et Arnaud Ducret sont avec nous. Cet après-midi, ils sont assez chauds. Arnaud Ducret, vous êtes sur une vague absolument incroyable. Alors, je sais que vous n'aimez pas le mot bankable, c'est vrai que moi non plus, d'ailleurs, j'aime pas ce mot.
Mais je préfère virement.
Mais les virements sont sacrément tombés. Vous êtes dans tous les bons films en plus.
Alors, parlons des arnaques, justement, des prestataires de services dans le domaine de l'acting.
En tout cas,
il y a un alignement de planète là.
Je lis des films, je lis des scénarios et quand. J'y crois, et quand je les vois à l'écran, je me suis pas trompé. Pour l'instant, je suis assez cohérent avec ce que je lis, donc ça va. Et c'est vrai qu'effectivement, celui-ci, Divorce Club, c'est comme dit mon agent, c'est pour mon personnage, par exemple, c'est une vraie bande démo d'acteurs. C'est-à-dire qu'il m'arrive tellement de choses dans ce film à mon personnage.
Tellement d'émotions.
Ouais, Ben Catala, qui est au fond du gouffre et qui va remonter pétillant. C'était un réel plaisir en le lisant. Et alors là, en le voyant, j'étais très heureux de ce qu'avait fait Mickaël.
Eva.
Mickaël, vous aviez tout de suite pensé à Arnaud pour le rôle de Ben ou pas ?
Je sens dans ses yeux que non.
En fait, à la base, j'ai rencontré Arnaud pour l'autre personnage.
Celui qui joue par François Xavier.
Celui qui joue le Lémur d'Amier. et en rendez-vous, très très vite avec Arnaud, ça a collé. Et je me suis dit qu'il était taille pour faire ce rôle. Et donc, pendant le rendez-vous, je lui ai dit je te file le premier rôle. Il est incroyablement doué. Il sait tout faire, Arnaud. En revanche, c'est clair qu'on ne l'a jamais vu aussi bon que dans Divorce Club.
job. Et, non, mais je suis très très fier d'être, d'être celui qui a ouvert la petite porte, quoi. Bonjour Arnaud, je suis celui qui vient ouvrir ta petite porte.
Tout ça très poétique. Alors messieurs, le moment d'habitude est grave pour Eva Rock, puisque c'est d'ordinaire le moment où elle doit affronter l'invité sur un test de culture G. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous êtes deux, le boomerang de la loose se retourne contre vous. Et vous allez jouer l'un contre l'autre.
Très bien, ça me fait des vacances.
L'occasion peut-être de briser une belle amitié juste avant la sortie d'un film. C'est l'heure du quiz. Mickaël et Arnaud Ducret, vous jouez donc l'un contre l'autre. Vous êtes obligé de demander conseil à Eva Rock avant de répondre. Toujours lui demander conseil. Ouais. C'est un quiz sur les couples dans la presse.
Ah bah
souvent,
ah bah
tiens, à la une des journaux, des couples défraient la chronique. À vous de me dire si ces infos ont vraiment fait la une ou s'ils sont totalement inventés. C'est parti. Mickaël lut dans Le Parisien. Le père force les enfants à regarder les Simpsons. La mère porte plainte. Vrai ou faux titre de presse?
Je sens... il faut que je demande conseil?
Pas obligé, non, vous n'êtes pas obligé.
Tu si, respectons les règles.
Oui, non, mais je dis tout que des conneries.
Je pense que c'est vrai, vous ne l'auriez pas inventé.
Eva?
Oui, moi aussi j'aurais dit vrai.
Eh bien, vous êtes de bons conseils, c'est faux.
Ah, merde.
Faux titre. Le vrai titre du Parisien était... Oui, vous avez dit merde à l'antenne.
Oui.
Le père force les enfants à manger des légumes, la mère porte plainte. Ça vous paraît exagéré? Non, ça vous paraît exagéré, mais sachez qu'il s'agissait quand même de brocolis. Donc quand même, la plainte n'a pas été acceptée.
Les brocolis.
Arnaud Ducret, dans 20 minutes, elle nomme son chien Gâchette. Son chien lui tire dessus. Vrai ou faux titre de presse?
Eh ben c'est, tu sais quoi, ça c'est les titres de détective machin, les trucs improbables d'histoire. Ben moi je dis que ça c'est vrai.
C'est une bonne réponse. Ah non, tu n'as pas consulté Eva. Et c'est oui. Le bon choix stratégique, pardon, visiblement, dans cette émission.
Justement, je veux pas.
C'est vrai. Ali Carter, 25 ans. Dans l'Indiana, elle participe à une partie de chasse. Inexpérimentée, elle laisse son fusil par terre. Le chien Gâchette marche sur la gâchette. Fort heureusement, le chien n'a rien eu. Ali, elle, a eu un peu de plomb dans les pieds. Mickaël Youn.
Mais qui sont cons, c'est pas possible, ces Américains.
C'est toujours le vrai. Oh là là. Mickaël Youn lui dans l'Obs. Il va chercher du collier pour sa femme. Il confond avec de la glu. Vrai ou faux titre de presse?
C'est faux.
Consultez Eva Rock.
Non, consultez pas.
C'est faux. Je pense qu'il n'est pas revenu avec de la colle. Il est revenu avec autre chose. Il est revenu avec de l'acide ou... C'est pas ça.
De l'acide, mais tout le monde n'a pas votre vie dissolue. Tout le monde n'a pas de l'acide à portée de main.
Donc c'était vrai.
C'est une bonne réponse de Mickaël Youn qui s'est rattrapé au dernier moment. Il a bien fait. L'homme, un peu étourdi, et comme ça se passe aux États-Unis.
Ah, qui sont tous les Américains.
On embrasse tous ceux qui nous écoutent là-bas, évidemment, ils sont nombreux. La femme n'a ni emploi ni mutuelle. Elle va passer une semaine avec l'œil collé. L'histoire a fait la une de la presse en Floride. Un médecin a finalement consenti à la soigner gratuitement. Oui, parce que les Américains ont ça de bien aussi, mais que là-bas.
À quel moment il a confondu le collier avec de la superglue?
Et puis à quel moment Elle le confond aussi. Enfin, ils sont deux à l'avoir confondu quand même.
Oh, ils sont doublement cons. Arnaud Ducret dans le Daily Mail. La femme aux deux vagins a eu un enfant. Vrai ou faux titre de presse?
Est-ce qu'il y a un vagin pour les garçons, un vagin pour les filles?
On n'a pas enquêté
jusque-là. Vous n'avez pas enquêté jusque-là, d'accord.
Non.
Je dirais que non, c'est faux.
Vous dites que non, et pas pourtant, c'est vrai.
Oh la vache.
Alors, non seulement Eleanor Rowe est britannique, mais en plus, elle a un vagin et un utérus dit d'elfe. Comprenez que tout est double. Le vagin, l'utérus et le col de l'utérus. Cette malformation ne se détecte pas pendant un simple examen gynécologique. Il faut une échographie. Cela concerne 1% des femmes. C'est ouf, ça paraît énorme. Et parfois...
Ouais, Eva, faites pas la fiche.
Et parfois, on l'ignore. Généralement, on opère pour réunir les deux utérus. D'accord. Conseil que je donne comme ça. Mickaël Youn.
On a même beaucoup de vannes, mais on était peut-être un peu tôt pour tout balancer. Les trucs sur la double P, tout ça, on n'y est pas allé.
Mais c'est les pâtes.
Deux rations de penne au Arabiata.
On continue. Lu dans le Corriere della Sera. Un couple de Français tente de voler une gondole à Venise, mais coule avec. Vrai ou faux?
Ça, c'est sûr que c'est vrai.
Ça s'invente pas. Mickaël Youn, bonne réponse. C'était la nuit, il pleuvait, il commençait à couler, la police est arrivée à temps, ils ont dû rembourser la gondole. Sachez que le prix d'une gondole peut aller jusqu'à 50 000 euros.
C'était l'Estonie et Chardin.
Mais oui, on l'a ramené. Il faut les laisser à Venise. Il ne faut pas les ramener.
Arnaud Ducret, c'est la dernière question. Ça va vous départager dans The Sun. Elle oblige ses enfants à sauter des repas pour se payer une paire de seins. Vrai ou faux?
Alors ça, c'est vrai, je vais te dire que c'est... Ils ont mis quoi? Ils ont mis deux chou-fleurs. Je vais te dire un truc. C'est totalement vrai.
C'est totalement vrai. C'est terrifiant. C'est pas du tout drôle pour finir ce quiz. Pendant deux ans, elle a mis toutes les semaines 540 euros de côté. Elle évitait d'acheter des habits aussi à ses quatre enfants. Au bout de deux ans, elle a pu aller en Pologne, mais la première opération a échoué. Il y en a eu une deuxième qui n'a pas convaincu non plus. Madame Gibson tente actuellement de faire financer une opération réparatrice par la sécurité sociale britannique. On embrasse madame. Comme quoi, les comptes ne sont pas tous aux États-Unis, ils sont aussi
en Angleterre.
En Angleterre, bonne réponse. L'Arnaud Ducret qui remporte le quiz. C'est les deux, égalité, magnifique. Vous voyez, les verts, quand vous ne jouez pas,
ça se passe mieux.
Ouais. C'est un des premiers films inédits à sortir en salle maintenant qu'elles sont rouvertes. Les Parfums, signé Grégory Magne. Emmanuel Devos vous y interprétez Anne, un nez, comme on dit, une créatrice de parfums. Est-ce qu'avant d'aborder ce rôle, vous étiez vous-même particulièrement sensible aux parfums, aux odeurs, ou bien c'était vraiment un rôle de composition quand vous êtes entrée dans ce scénario ?
Oh non, j'ai toujours été sensible aux odeurs, aux parfums. Je trouve que c'est un sens qui est important pour moi. J'avais même pensé faire ce métier-là vers 16-17 ans, je crois que je m'étais renseignée un petit peu. Mais c'est vrai que pour travailler le rôle, j'ai rencontré des nez, et notamment Christine Nagel, qui est la nez de chez Hermès. Et j'ai été c'est un métier absolument extraordinaire. Il y a très peu de gens qui peuvent l'exercer, parce qu'il faut une mémoire olfactive énorme. Il faut être chimiste aussi, il faut avoir un sens artistique très développé, C'est des gens qui doivent tout le temps chercher l'inspiration pour créer des parfums, donc c'est pas évident. C'est un métier très intrigant et passionnant, et moi ça m'a beaucoup intéressée de travailler en amont avant de commencer le tournage sur ce métier. Ouais.
Alors notre première concurrente du jour, elle n'est pas sensible aux odeurs, en tout cas on l'espère pour elle, vu qu'elle est vétérinaire et qu'en matière d'odeurs, elle doit en sentir des vertes et surtout des pas mûres. Farah Kaestri est une véto de renom. Que vous retrouvez dans le magazine de la santé sur France 5, une professionnelle dont la mission était de tirer notre émission vers le haut de gamme. Ce qu'elle tente de faire à chaque fois, le problème, si vous voulez, c'est l'animateur, un type visiblement jamais tout à fait sorti de l'âge bête, qui de sa dernière chronique extrêmement détaillée sur le sexe des animaux, n'a hélas retenu qu'une chose.
Parce que vous allez pouvoir dire que votre organe d'intromission est un héritage qui s'est perfectionné durant 400 millions d'années, donc il faut l'apprécier à sa juste valeur, à condition que vous en soyez à la hauteur.
Oui, moi je retiens une chose de votre chronique, c'est que j'en ai une plus grosse que le gorille. Veuillez excuser cette énergumène, effectivement l'info qui m'avait marqué dans cette chronique fort intéressante.
On va peut-être aujourd'hui rappeler pour Emmanuel Devos que donc le sexe du gorille question est entre 3 et 5 cm.
Ça, vous ne l'aurez
pas dit. En érection, voilà.
Ah oui,
voilà,
ouais, c'est vraiment rikiki.
Il y a quand même un petit problème avec nos amis gorilles, voilà.
Ils sont pleins de pas, ils ont un harem, tout va bien pour eux.
Aujourd'hui, clin d'œil au film d'Emmanuel Devos, vous nous dévoilez les extraordinaires pouvoirs olfactifs des animaux.
Absolument, parce que chaque odeur est un signal pour un animal. Il faut savoir qu'à travers le monde des odeurs, les animaux vont pouvoir trouver leur nourriture, ils vont pouvoir communiquer entre eux, ils vont pouvoir reconnaître aussi l'odeur de ceux qui font partie du même groupe qu'eux. Donc l'odeur, c'est vraiment primordial pour chaque espèce animale.
Alors, quelles sont les espèces qui ont un super flair ?
Donc, forcément, vous allez penser aux chiens, c'est vraiment le cas. Mais sur les 400 races de chiens, eh bien, il y en a quelques-uns qui se démarquent. Donc, sur le haut du podium, vous allez retrouver le Saint-Hubert qui, lui, a un super flair. C'est un chien qui va avoir à peu près 300 millions de récepteurs olfactifs au niveau de la muqueuse nasale.
Nous, on en a combien, par exemple ?
Nous, on en a à peine 10 millions. Donc on est très très loin. Mais finalement, ce n'est pas les chiens les plus doués en flair, ce sont plutôt les rongeurs. Les rats, eux, sont très très forts pour détecter les odeurs, notamment à travers les urines, parce que les urines peuvent du coup renfermer des odeurs, des marqueurs, et ces marqueurs-là vont être détectés par le nez du rongeur. Tout simplement pour se dire, tiens, j'ai senti ce pipi-là provient de mon copain, ce pipi-là provient de ma chérie, ce pipi-là provient d'un chat, donc il ne faut pas que j'y aille, etc.
Là, il y a beaucoup de sons
que je vais
pouvoir isoler pour la prochaine émission.
C'est la dernière, je me suis dit que j'allais faire un cadeau.
Question intéressée, la longueur du nez peut-elle indiquer que l'animal a du flair ? Est-ce que ça a un lien direct ?
Alors, je précise bien, chez les autres espèces animales, en dehors de l'être humain, d'accord ? Vous n'imaginez pas autre chose.
Voilà.
Alors, en revanche, c'est vrai que pour les espèces animales, la longueur du nez peut indiquer, ça peut être effectivement un signal, un indice pour dire que l'espèce animale en question a un super flair. Par exemple, le tapir, lui, c'est un des plus grands mammifères d'Amérique du Sud, le tapir du Brésil en l'occurrence. Lui, il a une trompe qui va mesurer à peu près 15 cm. L'éléphant, pareil, lui, il a carrément une trompe qui va mesurer 2 mètres.
elle pèse quand même, sa trompe, 100 kilos. Il y a 150 millions de muscles qui vont soulever cette trompe pour pouvoir humer dans l'atmosphère, dans l'air, toutes les molécules odorantes qui sont transportées. Et il pourra comme ça détecter différentes odeurs, où se trouve l'eau, où se trouvent les fruits mûrs, mais aussi peut, grâce à sa mémoire olfactive, eh bien, il va pouvoir faire la différence entre, entre deux odeurs humaines, celle qui provient d'un agriculteur et celle qui va provenir d'un chasseur. Le chasseur, ça veut dire que c'est danger.
Et on a raison de dire du coup qu'un éléphant a une mémoire d'éléphant.
Oui, absolument. Oui. Les éléphants ont une excellente mémoire et après, les humains aussi. Et le nez chez les humains fonctionne énormément sur la mémoire olfactive et pas du tout sur le nombre de récepteurs. Donc, ce n'est pas grave si on n'a que 10 millions. Mais si on l'exerce bien, on peut avoir un super odorat.
Ah oui, il n'y a pas de relation de cause à effet en fait, entre le nombre de capteurs et la mémoire, quoi.
En théorie, on est capable de faire la différence entre plus de 10 000 odeurs en test dans un laboratoire.
Mais encore faut-il connaître le nom des plantes, notamment. Moi, par exemple, je suis incapable. Peut-être que je reconnais les parfums, mais je ne sais pas l'identifier. Je ne connais pas le nom des plantes.
En plus,
d'où la mémoire.
Il faut le dire, c'est un peu le bilan qu'on peut tirer de cette chronique. Merci, Farah. C'était une chronique à votre image, généreuse et foisonnante.
Parce qu'elle est poilue.
Non, parce qu'elle est talentueuse, Eva. Talentueuse.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Olivier de Benoît est notre équipier sauvage cet après-midi. Enfin, sauvage. Un peu moins depuis qu'il est père. Père de famille respectable, auteur de 4 spectacles et de 4 enfants. Mais jouons franc jeu avec nos auditeurs, Olivier. Comme moi, vous avez été jeune. Oui, à peu près à cette époque-là, début des années 90. Et comme tout le monde, forcément, vous avez dû connaître.
Dans les soirées, j'étais très très timide parce que j'avais des frères. J'étais dans une école non mixte, etc. J'ai connu. Chez nous, on avait plus peur des femmes que des loups. Et donc, non, parce que je pense à cette musique parce que le premier slow que j'ai fait, c'est avec mon frère.
Il y a eu des jeunesses plus loose que la mienne.
C'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait plein de vannes sur ma femme, les femmes, etc. C'est que effectivement, de 0 à 18 ans, je n'ai connu aucune femme. Et voilà. Donc, c'est pour ça que quand je pense à ces soirées-là, c'est des soirées entre mecs. Ouais.
Alors, mon lancement ne fonctionne plus, je vous le dis même. Vous le dis quand même, parce que je pensais que je ne savais pas, je ne connaissais pas votre enfance, votre adolescence. Je disais, comme tout le monde, forcément, vous avez dû connaître les week-ends à Barcelone, l'été qui la paf qui s'enchaîne, les pilules bizarres qu'on gobe à la volée, et on finit torchant le chiffon y carpet, comme on dit là-bas. Et à 5 h du mat, la Guardia Civile vous ramasse alors qu'on s'exclame
Mayday, Mayday, au secours, papa le Zulu X-Ray.
Oui, voilà, visiblement, Fred Boetti a connu ces soirées-là. On a été jeunes. Mais certains, en choisissant d'aller bosser à Barcelone, le restent toujours. Bonjour Henri de la Guéry.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un spectacle peu commun à Barcelone. Le rideau du Grand Théâtre du Liceu s'est levé pour un concert devant un public très particulier. Dans la salle, il n'y avait que des plantes. Henri.
Par respect au public et aux artistes, voilà.
Attention les amis, est-ce que vous avez bien éteint votre téléphone portable? C'est ce qu'on entendait l'autre jour. Venez avec moi, fermez les yeux. Je vous emmène dans l'une des plus belles salles d'opéra en Europe, le Liceu, au cœur de la Rambla. C'est là où vous terminez avec la Guardia Civile, Mathieu, il y a quelques années, avec ses fauteuils rouges, ses miroirs, ses fresques au plafond, ce style néo-baroque typique du 19e siècle. Et ce que vous entendez derrière moi, ce sont les chrysanthèmes, un quatuor de Puccini. Vous imaginez sans doute un public attentif, des costumes sombres, des robes élégantes. Eh bien, pas du tout. Dans la salle, tout est vert. Les 2292 sièges sont occupés par des plantes, des ficus, des palmiers. Il y en a partout, à tous les étages, dans toutes les loges. Le vert contraste avec le rouge des sièges et bienvenue dans l'opéra du monde d'après. Le concert est quand même diffusé sur internet et les seuls humains présents dans la salle, bien, ce sont les 4 musiciens. C'est un artiste contemporain espagnol, Eugenio Ampudia, qui a imaginé ce spectacle pour cette reprise après 3 mois de silence.
On imagine qu'il a voulu faire passer un message.
Et oui, évidemment. Alors, on en a beaucoup parlé pendant ce confinement. La nature a repris ses droits pendant le confinement. Son idée, donc, c'est de nous inviter à réfléchir sur notre relation avec la nature. Et l'idée lui est venue pendant le confinement, en écoutant le chant des oiseaux plus fort que jamais, en voyant les plantes près de sa maison pousser plus vite. On écoute ses explications.
Nous vivons la fin d'une époque. Et cela signifie qu'il faut changer certains paradigmes. Nous ne vivons pas dans le même monde que celui qui nous a contraints au confinement il y a 90 jours.
Nos confino
Et cela doit se refléter dans chacune des choses que nous faisons.
Voilà, et selon l'artiste, eh bien, ces plantes ont intégré dans leur photosynthèse le fait qu'elles ont participé à ce concert. Il précise d'ailleurs que le streaming était fait pour que les gens montrent le concert à leurs plantes.
Oh,
il est encore disponible sur Internet, donc allez-y, n'hésitez pas. Ce soir, vous mettez vos plantes devant l'ordinateur et puis vous leur montrez. En tout cas, les plus de 2000 plantes qui ont servi lors de ce concert il y a 10 jours, eh bien, elles ont été offertes au personnel soignant de Barcelone après ces 3 mois et demi de pandémie.
Voilà, donc,
juste Olivier. Une petite question, mais qui n'a rien à voir avec les plantes. Est-ce que vous avez été voir un spectacle? Il paraît qu'à Barcelone, il y a un spectacle où alors les gens ont des tablettes devant eux et ils rient. À chaque fois qu'il y a un rire, ils payent et ils payent au nombre de rires.
Ah oui, oui, je me souviens de cette histoire. Est-ce je ne l'avais pas vu, mais je crois que c'est il y a quelques années, je m'en souviens.
Et ça n'existe plus aujourd'hui?
Je n'y étais pas. Alors, il faudrait que je vérifie, mais je ne crois que pas.
C'est assez insolite. Chacun un iPad avec la reconnaissance faciale. Et à chaque fois qu'il y a un rire, il y a un clic. Et au nombre de rires, vous payez. Donc, si vous n'avez pas ri, vous ne payez pas. Et si vous avez, voilà.
C'est terrible quand même. Vous seriez prêt à participer à ça?
Oui, il ne faut pas avoir une bonne prod derrière ou un spectacle.
Oui, voilà, il faut être sûr de son spectacle. Eh bien, merci Henri Laguéry pour ce sujet étonnant qui nous prouve qu'il y a peut-être eu pénurie de masques en Espagne, mais en tout cas, pas pénurie de sangria. Merci beaucoup.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Commis d'office, mise en demeure, cour de cassation, cour d'appel. Si vous êtes aussi à l'aise que moi avec les termes juridiques, si comme moi vous pensez que le parquet est avant tout un revêtement plus agréable à l'œil que la moquette et que le bâtonnier est un arbre fruitier donnant des fruits en forme de petits bâtons, alors procurez-vous rapidement La justice pour les nuls, l'ouvrage de notre invité, Maître Emmanuel Pierrat. Alors Maître, j'imagine que c'est lassant d'avoir des clients qui ne comprennent rien à ce que vous leur dites, mais je crois savoir qu'il y a plus ennuyeux encore pour un professionnel du droit qu'un client qui n'y connaît rien, un client qui croit s'y connaître et qui vous sort des articles de loi. Quelqu'un m'a soufflé ça.
Ça c'est le plus difficile. Moi je comprends très bien qu'on ne connaisse pas les outils du droit, c'est un langage opaque. Tout est fait pour être incompréhensible par le justiciable. Hein. On utilise encore des formules latines.
Oui.
Je sais pas qui. C'est en plus c'est du latin de cuisine. C'est même pas celui qu'on apprend que mes filles apprennent à l'école. C'est vraiment un latin inventé quelque part dans une sorte de dessin animé au début du voilà. Et c'est du latin de cuisine. On utilise un vocabulaire quand même. On parle entre initiés. Vous savez, quand je suis dans une salle d'audience et que je représente mon client et qu'il est dans la salle, je dis au juge pour faire comprendre que je vais être un peu plus long que prévu. Je dis, je plaide corps présent. Ça veut dire, mon client est dans mon dos, il est derrière. Vous allez vous taper un quart d'heure de plaidoirie trop qui ne sert à rien, c'est pour lui faire plaisir.
C'est vrai?
Alors, moi,
mais
je trouve ça... Et mais non, j'avoue, parce que je trouve ça insensé d'avoir ces codes pour dire en gros au juge, voilà, on va faire semblant de traiter son affaire juste parce qu'il est là et que ça lui fait plaisir et qu'il n'y comprend rien. Voilà, donc c'est un langage opaque que j'essaye, moi, de désocculter, en tout cas de rendre intelligible.
Oui, mais là, avec ce livre, si moi je lis ce bouquin, ensuite j'ai un problème, je viens vous voir pour être mon avocat, je vais il y a ça, il faudrait plaider ça. Vous allez me dire non, mais t'as rien compris en fait.
Un jour, un avocat, un confrère adverse me dit, parce que j'ai écrit beaucoup de livres et beaucoup de livres de droit, me dit vous êtes trompé à l'audience. Il me dit chapitre temps dans votre livre, vous écrivez le contraire de ce que vous avez plaidé. Et il me dit on écrit toujours trop. Et là, je prends le bouquin, je tourne la page d'après, je lui dis chapitre suivant, je dis exactement ce que je suis en train de plaider, on ne lit jamais assez.
Vous l'avez retourné. On continue notre joli voyage dans l'histoire de la justice, mais vous le savez, la compétition n'attend pas. Voici notre deuxième concurrent, un journaliste que je sens tout à fait emballé par notre thème du jour sur le fonctionnement des institutions judiciaires.
Là, ça m'émoustille totalement, là, vous n'imaginez pas.
Foutez-vous de ma gueule, Dutheil, mais n'oubliez pas, moi aussi, je vote à la fin. Emmanuel, vous nous rappelez votre sujet du jour sur les princesses et les princes, hein ?
Oui, alors je vais essayer de collé au centre d'intérêt de notre invité parce que j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, que ça marche plutôt bien pour mes piètres compétiteurs qui tentent à chaque fois cette opération de flagornerie, mais bon, il faut semble-t-il se mettre dans leur clou pour essayer d'y arriver à cette émission. Donc cet après-midi, je vais vous parler des photos volées des têtes couronnées, parce que j'ai une petite passion pour les rois et les reines. La plupart attaquent directement et souvent gagnent beaucoup d'argent de la part de la justice, en tout cas la justice décide de leur donner au final pas mal d'argent. L'une des photos les plus connues en la matière, d'après vous, c'est laquelle? D'une tête couronnée, je parle.
C'est Lady Diana ou pas, non?
C'est la duchesse de Cambridge. Un petit peu plus récent, voilà. C'est effectivement son Altesse royale, la duchesse de Cambridge, que l'on peut également appeler de son petit nom Kate. Vous vous souvenez de cette photo seins nus dans le
Luberon?
On avait appelé ça la deuxième lune de miel, un an et demi après leur mariage. Ça avait été pris donc en 2012, et des photos qui avaient été publiées à l'époque dans Closer.
Et le couple avait attaqué?
Oui, bien sûr, ils réclamaient 1,5 million d'euros au magazine pour dommages et intérêts. Alors, ils ont eu beaucoup moins, mais je crois que dans ce cas-là, c'est quand même énorme. Ils ont eu 100 000 euros de dédommagement.
Maître Pierrat aurait obtenu plus. 250 000.
Non, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup.
Et surtout, ce qui avait été à l'époque très étonnant, puisque là, c'était, je crois, la charge maximum.
C'est beaucoup pour des gens qui n'en ont pas beaucoup besoin.
Oui, c'est ça,
hein,
surtout.
Il faut surtout ramener les choses à leur juste réalité.
Mais en plus, ils avaient réussi à faire condamner la directrice de la rédaction de Closer et le directeur de la publication. Et eux avaient eu chacun 45 000 euros, qui, je crois, est la peine maximale en la matière. Donc, ils avaient eu une très, très grosse condamnation pour cette photo publiée dans Closer.
Parce qu'il y a une chose aussi, les Royals britanniques ne peuvent pas attaquer sur le territoire britannique. La loi anglaise ne leur permet pas d'attaquer.
Façon, là,
la loi anglaise est moins, est moins censure, enfin, est moins une loi de censure ou de protection de la vie privée que la loi française. Donc ce qu'ils font depuis quelques années, c'est qu'ils viennent devant les juridictions parisiennes ou françaises demander réparation pour toutes les publications dans le monde. Ce qui fait que, évidemment, quand vous avez Kate Middleton qui se pointe, elle n'attaque pas Closer. Derrière, elle attaque en réalité Closer plus tous les tabloïds britanniques en demandant aux juges français de réparer ces pauvres malheurs, la pauvre chérie. Heureusement qu'on en a envoyé une au Canada quand même.
Mais rassurez-moi, ils le font pour le symbole, pas pour l'argent.
Enfin, non,
la famille royale.
Bah, vous savez, ceux qui sont spécialistes en la matière, alors il manque pourtant pas d'argent non plus, mais force est de constater quand même qu'ils ne le redistribuent pas énormément, c'est la famille de Monaco. Et notamment Caroline de Monaco, elle a une règle, elle attaque à chaque fois qu'il y a une photo non officielle d'elle. Et là aussi, ça peut monter pas mal, hein, puisque j'ai regardé les dernières publications qu'elle a pu avoir. On est aux alentours de 50 000 euros généralement en termes de condamnation. Et là aussi, j'ai comparé avec les stars de cinéma, c'est souvent plus pour la famille de Monaco que pour les stars de cinéma. Et par exemple, si vous lisez Voici ou ce genre de magazine, ils sont remplis de condamnations pour publication de photos volées. On appelle ça une insertion judiciaire. C'est plus courant pour la famille de Monaco que pour les autres starlettes. Et à cela, une raison, m'a-t-on dit, les people passent, donc on finalement, on a moins d'intérêt pour eux, alors que les familles royales restent. Et du coup, leur cote est plus élevée. C'est pour ça qu'ils arrivent à obtenir plus d'argent et qu'ils arrivent à obtenir plus d'insertion judiciaire.
Non, il faudrait arriver à séparer. Il y a d'un côté les procès un peu légitimes. Kate Middleton, prise seins nus, c'est une paparazzade, c'est pas agréable du tout. Accessoirement, quand ils attaquent simplement parce qu'on a republié la photo d'un corgi accompagnant la reine, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ça, c'est pour aller chercher des sous. Moi, j'ai gagné un très, très beau procès il y a de très nombreuses années pour un paparazzi qui avait fait Ducruet nu. Vous vous souvenez de cette histoire? C'était les Monaco. Et le procès avait été assez insensé. Et le comportement des intéressés qui jouaient avec le feu, c'est-à-dire qui se montraient en public, qui attaquaient le lendemain, avait beaucoup joué. Et j'avais réussi à obtenir un bon score pour le paparazzi. Mais il y avait une chose qui m'avait beaucoup amusé dans ce procès, que je vous raconte, pour le plaisir de l'anecdote. Le juge, vous vous souvenez, c'est des photos au bord d'une piscine où d'un seul coup, avec il s'envoie en l'air avec Miss Saint-Denis de Belgique 1994. Et donc, ça paraissait dément parce qu'ils se ruent l'un sur l'autre et ils s'envoient en l'air. Le garde du corps se tape une lunette à côté. Enfin, ils ont l'air d'être en rute, mais un point insensé. Et alors, le juge dit, mais vous les avez drogués, monsieur le paparazzi, vous avez mis de la drogue dans des boissons pour qu'ils se rendent comme ça, etc. Il dit, non, j'ai mis le chauffage à fond dans cette ville-là. Il faisait 48 degrés, on est au mois d'août, ils arrivent dans le truc, ils se sentent, c'est tellement chaud qu'ils arrachent leurs vêtements, ils se jettent dans la piscine tout nus, puis après c'est parti. Ça m'avait donné une leçon et il m'avait dit, et le juge nous a regardé en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il dit que j'ai fait la même chose avec Gérard Depardieu et Carole Bouquet à l'époque. Ils étaient à Venise, c'était une histoire d'amour, je savais pas comment faire, j'ai mis le chauffage à fond dans leur chambre, à l'hôtel, en payant le groom. Et mais je me suis planqué dans le truc d'en face. Ils ont ouvert la fenêtre, évidemment, pour prendre l'air. Et ils avaient à moitié défait leur chemise. Ils se sont embrassés à moitié nus. Donc, c'est comme ça qu'on a révélé leur histoire.
C'est atroce.
Alors, je m'étais dit, purée, je défends quand même des types capables de choses assez, assez étonnantes. Mais la nature humaine est beaucoup plus simple, vous voyez, que la drogue ou des choses pour les pousser à se mettre tout nus.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Une immense actrice a dit un jour, je cite, « Perdre un César, c'est pénible sur le moment et c'est pire les jours qui suivent. Si vous ne l'avez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bonne, ça veut dire que vous êtes finie. » C'est exactement pareil pour nos journalistes en compétition qui seront donc jugés aujourd'hui par cette merveilleuse actrice qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour Emmanuelle DeVos.
Bonjour.
Vous êtes à l'affiche aujourd'hui d'un des premiers films inédits post-confinement, Les Parfums de Grégory Magne avec notamment Grégory Montel et dans lequel vous interprétez un nez, une créatrice de parfums qui est une star dans son milieu, travaille pour les plus grandes marques, un talent inouï pour sentir les choses, mais plus au sens propre qu'au sens figuré. Elle n'est pas hyper à l'aise socialement, cette femme.
Non, elle vit beaucoup dans une bulle. C'est quelqu'un qui a un petit peu du mal avec la vie normale. De par son métier, en plus, elle a un petit peu l'habitude de se protéger. Puis en plus, comme c'est une personne qui a chu,
qui a été et qui n'est plus, ça lui donne encore plus une peur du monde et des autres, plus qu'une vraie méchanceté, mais c'est vrai qu'elle est... Elle a un aspect un peu méprisant.
Et c'est ce qui rend le personnage hyper intéressant. Il y a quelque chose que j'ai lu dans les interviews et qui me paraît complètement contredit par les quelques minutes qu'on vient de passer hors antenne avant l'émission. Il paraît que vous auriez des liens avec cette personnalité, c'est-à-dire cette forme de, pas de timidité, mais de difficulté sociale. Vous l'auriez eu en tout cas à un moment de votre vie.
Oui, mais souvent, les gens timides peuvent paraître froids et distants, ce qui est en fait leur protection. Et moi, effectivement... J'ai pu, comme il y a une scène dans le film où Grégory, qui joue Guillaume, Grégory Montel, lui dit « Mais enfin, vous n'avez même pas regardé la serveuse qui est venue prendre la commande.
Génial.
Et vous
ne
pouvez pas lui dire bonjour et merci. » Et j'avoue qu'on m'a déjà dit ça. Mon amoureux m'a dit ça il y a 5-6 ans. Mais il m'a dit un jour « Mais tu sais que tu ne regardes pas les gens ?» Quand tu commandes quelque chose dans une boutique... Ou...
Et c'est pas du tout être hautain, c'est
là. Non, c'est quand on a l'habitude d'être un peu regardé, c'est comme si on fait l'autruche, quoi. Si je regarde pas, personne me voit.
Ouais.
C'est stupide, évidemment. Mais c'est une réaction... voilà. Après, j'ai été une enfant extrêmement timide aussi, c'est vrai.
Emmanuel Devos, on est enchanté de vous recevoir. On va parler du film Les Parfums pendant ces deux heures, le film qui sort aujourd'hui. Mais d'abord, un mot de cette soirée des Césars qui a révélé, pour certains, votre don comique. C'est vraiment, on peut le dire, le meilleur moment de la soirée.
Ah oui.
Tout, sans flagornerie aucune, c'était le meilleur moment de la soirée. Pourquoi vous ne faites pas plus de comédie, Emmanuel Devos ?
Mais alors, je dois préciser que le texte que j'ai dit n'était pas de moi. Hein.
Ah oui, bah oui, mais enfin, vous êtes...
Non, c'est Juliette Chéniaud et Vincent De Dienne qui m'ont appelé, c'est Vincent qui m'avait appelé pour que je présente le César avec lui. Et c'est eux qui l'ont écrit.
Mais vous l'avez très bien joué.
Je l'ai très bien joué, certes. Mais moi, si on me donne des textes bien écrits et drôles, je pense que je peux faire le job. Hein.
Parlez-nous quand même de ce film. Alors, Les Parfums, qui nous a beaucoup plu. C'est un film très original. Déjà, c'est un sujet... qu'on voit rarement à l'écran. Parce que
surtout qu'on se dit
que
c'est pas possible, sauf si on est en odorama. Mais...
Exactement. Comment on joue un nez ? Comment on joue un film dans lequel il est beaucoup question d'odeur et tout ça ? C'est ça qui vous a intrigué ? Vous avez dit que c'était un défi d'actrice ?
Oui, ça se joue surtout à la réalisation, finalement. C'est comment le réalisateur va nous filmer. Ça se joue beaucoup dans le regard aussi. Parce que c'est vrai que quand on a reniflé trois fois, bon, voilà, ça c'est fait. On peut pas faire ça pendant tout un film, mais c'est dans la subtilité et l'attention et l'émotion que on peut sentir une odeur à l'écran. Et je pense que Grégory Magne avait cette sensibilité-là, cette finesse-là pour filmer ces deux personnages. Finalement, oui. Après, il y a des petites cartes qui vont être distribuées dans les cinémas. Vous pouvez gratter pour...
Ah, c'est génial.
Ouais, c'est une bonne idée publicitaire.
Effectivement, ça c'est un bon...
Ouais.
Ça va bien avec le film. Les Parfums de Grégory Magne sort aujourd'hui. Emmanuel Devos passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Il est temps d'écouter votre florilège du jour, Eva.
Ah bah c'est surtout celui de Sébastien Bordonnave, c'est notre producteur, Emmanuel Devos. Voilà. Non, moi, je fous jamais rien, vous le savez bien quand même. On appelle ça le florilège. En fait, ce sont deux séquences qui se répondent. Il y en a une qui est réalisée par nos amis de Groland, en l'occurrence, aujourd'hui, et une autre qui est extraite de l'émission Sur le front qui était diffusée hier soir sur France 2. Séquence très commentée sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle on découvrait que des enseignes de la grande distribution vendent du requin, qui est pourtant une espèce protégée. Il y en a une sérieuse et donc une... pas si sérieuse que ça.
Après la mort de notre héros principal Johnny Hallyday, la ferveur des fans est toujours aussi grande. Ainsi, après son album posthume, le manager de Johnny a décidé de cultiver des légumes sur la tombe de la star.
J'ai planté des tomates là, puis il y a aussi du persil, du poireau, de la feuille de chêne et du chou.
Comme dans cette poissonnerie de Charente-Maritime, c'est la fierté du patron.
Les gens ont toujours la hantise parce que ça reste quand même un requin. Mais voilà, une fois qu'ils ont goûté...
Ici, personne ne se demande s'il est protégé.
Bah moi, j'ai ma mère qui en a acheté quand j'étais petite, donc non, ça ne me surprend pas. C'est pas du dauphin non plus.
Se nourrir avec des produits cultivés sur la tombe de Johnny, il fallait y penser.
Jojo aurait été content de faire plaisir à ses fans en leur offrant de bons produits. 5 fruits, 5 légumes par an et une bonne bouteille de whisky par jour. C'était son credo.
Alors, je vous voyais ouvrir des grands yeux au moment de la séquence sur les requins.
Donc ça, c'est, on n'était pas dans Groland.
On n'était pas dans Groland, on était dans une poissonnerie. Et ça existe aussi dans les supermarchés, enfin dans un secteur de la grande distribution. Et souvent, ce n'est pas marqué requin, c'est marqué veau de mer. Oui. Et le veau de mer, c'est du requin. Et certaines espèces de requins sont des espèces protégées. Donc voilà, au moins vous demandez de quelle espèce il s'agit.
Voilà, bien distingué avec... Oui, Mathieu Charrier, vous vouliez...
Non.
Vous aimez le steak de requin?
Non, pas du tout, je ne mange pas de steak de requin, mais souvent, il faut préciser que c'est quand ils pêchent avec notamment des gros filets et ils se...
Oui, alors je vous explique, ça c'est ce qu'ils disent, pour se dédouaner.
Ça arrive régulièrement.
Oui, bien sûr, ça vous arrive souvent de ramasser un requin dans vos filets. Escroc, va.
Gustave Kervern, Groland, le lien avec le film. Tout de suite, rapidement. Vous connaissez Gustave Kervern avant
non,
le tournage?
Pas du tout.
C'est un sacré personnage.
Oui, et on a une bébé scène ensemble. Oui, j'aurais adoré en avoir beaucoup plus parce qu'il est vraiment extraordinaire. Ouais.
Mais alors maintenant, vous avez fait part de votre envie de faire plus de comédie.
Peut-être vont-ils m'appeler. Gustave et son copain.
Mais ils font des films qui sont à la
lisière. J'adore cet humour vraiment décalé et j'adore.
Un humour hyper exigeant, un univers aussi, ils ont vraiment fait un chemin incroyable. Vous aimez Emmanuel De Vos, mais aussi plus globalement le cinéma, ainsi que les chats et les paupiètes de veau, l'armoricaine. La seule mission à vous garantir tout ça au même endroit, en même temps, c'est la nôtre. Restez avec nous.
16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
La monogamie est-elle le seul horizon possible? Plus dérangeant encore, osons la question. La monogamie est-elle tenable?
Ça va pas, non?
Non, mais ne nous précipitons pas pour donner. On pose la question. Michael Youn et Arnaud Ducret passent l'après-midi avec nous pour évoquer la sortie le 14 juillet prochain de Divorce Club. Alors, Michael, vous avez reçu deux prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Hein.
Oui. C'est
est-ce
bien.
Est-ce que ça va changer le regard
la face du monde.
Des gens dans la profession sur est-ce que vous allez passer au statut de grand réalisateur de comédie? Vous le sentez?
Si je peux me permettre, parce que j'étais public de Fatal, par exemple, déjà Fatal, il avait tapé fort, quoi. J'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, quand on m'a proposé ce film, Divorce Club, et que je savais que c'était Mika, que j'aimais beaucoup déjà artistiquement, j'ai pensé tout de suite à Fatal. Je me suis dit, voilà, tu sens que le mec, il faut que ça travaille beaucoup pour la comédie et tout ça, quoi.
Je m'en fiche un peu.
Complètement.
Voilà. Pas complètement, parce que j'ai dit un peu. Je m'en fiche un peu. L'important, moi, c'est que je fasse ce que j'ai envie de faire.
Mais alors, justement,
ce qui se passe dans la tête des gens ou des journalistes, je m'en fiche.
Justement, c'est la question qu'on se pose quand on est un peu extérieur au milieu du cinéma. On a du mal à comprendre. Il y a des gens qui ont la carte, d'autres pas. Il y en a qui font des films facilement, d'autres qui nous disent. J'ai reçu des gens très connus à ce micro qui me disent ah, c'est compliqué chaque film pour le financer.
Surtout les comédies.
Et je voulais savoir, vous, Michael Youn, quand vous dites j'ai une idée de film, clac! Tout le monde arrive pour commencer le film, ça se passe comment?
C'est compliqué, le cinéma français, c'est là qu'on plombe l'ambiance. Le cinéma français est en pleine mutation. On travaille dans un métier en mutation, et vous aussi d'ailleurs dans les médias, c'est pas évident. Il y a un peu une crise des financements, donc il faut des projets qui sont sûrs, des projets qui sont pas trop chers. C'est compliqué pour tout le monde.
Pour monter ce film, on a tous fait, à l'échelle du cinéma, on a tous fait des efforts. Quoi. Voilà, on a tous fallu faire des efforts financiers.
Sans dévoiler les montants, mais c'est vrai qu'Arnaud a été négocié par son agent à un certain tarif et que ça n'arrive jamais, le producteur est revenu et a dit est-ce que vous pouvez faire un effort parce qu'on n'y arrive pas quoi.
Donc tout le monde a fait un effort.
Parce que
l'histoire est super, parce qu'on veut que les films se fassent. On n'est pas débiles.
Fêtes coûtaient trop cher, évidemment.
Ça, c'est le génie de Michael.
Le plus beau compliment qu'on nous a fait sur ce film, c'est un producteur qui est arrivé et qui m'a dit il y en a au moins pour 12 millions à l'écran. Et non, il y en a pour 6 millions 7. C'est déjà beaucoup d'argent.
Il faut dire que c'est votre villa qu'on voit dans le film. C'est chez vous.
Je prends quand même un malin plaisir, un malin talent à mettre tout l'argent sur l'écran, comme on dit.
Michael, il aime. On sait que si tu fais un film avec Michael, il aime les gags, il aime la belle image, il aime les gags. Un peu, j'ai envie de dire l'américaine, mais voilà, visuel. Donc ça demande de l'argent, quoi. Donc il faut Mais après, il s'adapte aussi. Donc et c'est vrai que c'est très agréable de se dire que le film, en fait, est moins cher qu'on se pensait, avec une image magnifique et plein de trucs très drôles dans le film. Quoi.
Mais oui, il a coûté 67 000 euros. C'est vraiment étonnant pour un film qui envoie autant à l'écran. C'est vraiment fort. Est-ce que dans les avant-premières, les gens viennent vous voir et vous disent moi aussi, ma meuf est partie avec mon cousin ou il s'est passé quelque chose?
Non, dans le Nord, on a fait très peu de promo, on en a pas fait beaucoup. Mais on n'a pas vu de gens. T'as eu des gens qui disaient
Non, mais on leur faisait lever la main dès qu'on était en tournée province. On fait qui est séparé, qui est divorcé, qui était victime de l'amour. Il y a quasiment toute la salle qui lève la main. On fait ce film vous est dédicacé.
Lui, sa femme ne risque pas de le tromper avec qui que ce soit d'ailleurs, et pour cause. Quand on a tiré le gros lot, à savoir la musculature de Jean-Claude Van Damme et le cerveau de Bill Gates, et attention, pas l'inverse, on garde précieusement ce qu'on a. Anissa Mbida, notre expert innovation, est vraiment ce qu'on appelle un beau parti. En plus, cerise sur le gâteau, il a l'art d'amuser sa partenaire au moment fatidique en lui disant par exemple avec un clin d'œil malicieux
« Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux !»
Avant d'ouvrir la cage aux oiseaux, Anissa, merci quand même de nous livrer votre chronique du jour. On parle d'une intelligence artificielle si perfectionnée qu'elle a réussi une formidable arnaque.
Oui, c'est le genre d'arnaque qu'on aimerait tous réaliser un jour, surtout quand on est prestataire de service. Alors je vous raconte l'histoire.
Les fameux prestataires de service qui sont fans d'arnaque.
Mais oui. Non, mais on a... Alors c'est pas à vous que je vais raconter que l'arnaque, c'est quand même... on a quand même droit à des arnaques tous les jours ici dans cette émission.
Oui, hein, oui, c'est pas vrai. Toujours avec des prestataires de service.
Parfois avec des journalistes. Alors, qui ont une carte
histoire,
de presse.
Cette histoire se passe en Russie. C'était il y a un peu plus d'un an. Il y a un cabinet de design qui s'appelle Artemy Lebedev et il recrute un créatif, son nom c'est Nikolai Ironov, donc un nom classique, et cet artiste justement, on lui fait une page de profil sur le site, on peut voir son portfolio avec des différentes œuvres qu'il a créées, c'est formidable, sauf que c'est un artiste qui a un petit peu des problèmes pour se déplacer, il a des problèmes de mobilité, donc il reste chez lui, personne ne le voit au bureau, mais comme on voit son portfolio, tout le monde peut commander des œuvres, tous les clients peuvent s'intéresser à son travail. Et pendant un an, il va créer des t-shirts, des logos, des étiquettes, des bannières de sites web. Alors, je vous ai amené un peu des exemples de son travail.
Est-ce qu'il a bossé pour Europe 1 ?
Regardez. Oui. Et il s'est trouvé que ce designer qui a fait énormément de choses, des t-shirts,
c'est
etc.
Pas,
et
oui,
c'est pas ouf. Hein.
C'est une intelligence artificielle.
Quoi ?
Qui est derrière ce fameux Nikolai. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez hein, de ces...
Il y a des trucs pas mal.
Mickaël trouve ça pourri. Moi, je trouve que ça fait assez...
Non, c'est pas ouf. C'est pas...
On a vu des designers plus pourris, quoi.
Oui, c'est clair.
Humain.
Ce qui est très, très drôle, c'est que justement, quand on dit que c'est une intelligence artificielle qui a fait ces différentes œuvres, nous disons, oui, finalement, ça se voit. C'est pas terrible, c'est pas ouf, c'est pas très
J'aurais
créatif.
J'aurais pas dit ça.
C'est pas créatif. Mais mettez-vous à la place des gens à l'époque bien de sûr. Piet Mondrian, de Picasso, de Gustav Klimt.
Ah oui,
quand
sûr.
Ils ont sorti leurs premières œuvres, qu'est-ce qu'on disait? On disait, un enfant de 5 ans peut le faire. Ouais. C'est Et donc aujourd'hui, quand une intelligence artificielle est capable de le faire, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'art finalement?
Ouais.
C'est un peu la question qu'on peut se poser. L'autre question qu'on peut se poser, c'est sur le processus créatif.
Mais comment ça marche?
Parce que le processus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un système, une technique assez traditionnelle aujourd'hui en intelligence artificielle, qui s'appelle l'apprentissage profond. Donc on lui montre un peu
le
des œuvres, des logos, etc. Et il est capable de composer lui-même. Mais comme c'est une intelligence artificielle, comme c'est un algorithme, il ne va pas s'inspirer d'autres humains. Il ne va pas s'inspirer de sa propre expérience. Il
n'a
pas d'angoisse de la page blanche. Et donc, il a des créations qui sont toujours parfaitement originales. Donc, c'est plutôt intéressant pour un créateur, parce qu'il y a toujours un truc. Il s'est inspiré de bidule, il s'est inspiré de machin. Donc, ça pose énormément de questions, cette intelligence artificielle qui a réussi à berner tout le monde pendant un an. Alors, ce qui est intéressant, ils ont fait une création pour un YouTuber. Et le YouTuber n'était pas très content de la création. Il a même fait une vidéo YouTube en disant, dis donc, les créatifs de cette cabinet, ils sont pas
très bons. C'est comme ça qu'ils se sont fait griller ?
Non, pas du tout. Ah c'est juste lui qui dit, on a tous vu des designs qui n'étaient pas terribles, faits par des humains, donc ça n'a surpris personne. Mais personne ne s'est imaginé une seconde que ça pouvait être un ordinateur qui était derrière. Et aujourd'hui, donc, ça pose deux questions. Le processus créatif, est-ce qu'on pensait que c'était réservé à l'humain, cette idée de pouvoir créer quelque chose de complètement original ? Eh bien non, on vient de voir que c'est quelque chose qui arrive à bluffer tout le monde. Et aussi sur la notion d'art, quand on fait quelque chose de très original, parce que même si on n'aime pas, on peut quand même reconnaître que c'est hyper original. C'est des choses qu'on n'a pas vues, ce type de logo, cette façon d'agencer les formes, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Et donc, je pense qu'il va falloir s'y faire. Là, on parle d'art, on parle de design, mais ça pourrait être
dans
un auteur.
Attention, ouais.
Attention à ce que vous allez dire. Hein.
Mais attention, je suis à distance.
Et justement, c'est là où je voulais en venir. C'est parce que maintenant, il y a une intelligence artificielle aussi qui fait des scénarios.
Non.
Qui est utilisée pour faire des scénarios.
Bonjour, les dialogues.
Elle n'est pas encore réalisatrice parce que la direction des acteurs, elle ne sait pas encore faire. Mais faire des scénarios, ça se fait avec l'intelligence artificielle.
Les tentatives qu'ils ont faites avec les séries, c'était pas génial. Hein,
mais parce que c'était pas, on ne demandait pas de créer jusque de A à Z.
Non, mais là, il n'a pas tort. Hein, ça va arriver, bien sûr.
Et donc, on va se poser la question sur notre rôle dans tout ça. Est-ce qu'on laisse faire ? Est-ce qu'on ne laisse pas faire ? Qu'est-ce qui va faire notre différence en tant qu'humain ? On pensait que c'était l'art et que c'était la création. Et bien, on se rend compte que maintenant, les ordinateurs sont tout à fait au point.
Voilà, vous avez plombé l'ambiance.
Mickaël, en tant que créateur, ça vous fait peur ?
Pas du tout.
Vous allez la défoncer tranquillement.
Non, mais je pense que c'est notre allié, la machine. C'est pas notre ennemi. En tout cas, moi,
vous travailleriez avec une intelligence artificielle sur un scénario, par exemple pour, le restructurer ou rendre plus fort certains tournants.
Je pense que oui, mais alors ça, c'est pas pour la création, mais en tout cas pour la structure.
Ouais.
Oui, je pense que déjà il y a des logiciels qui font si t'as pas eu ton élément déclencheur avant la page 18, ça veut dire
ça existe.
Bien sûr.
Eh bien, nous vivons dans un joli monde. Que penserait Audiard de tout
les
ça
Terminator.
C'était mon côté, vieux con.
Je suis à finir avec le Terminator, je suis le T-1000. Tu vois, ils vont venir.
T-1000.
L'intelligence artificielle.
Il me fait peur, Arnaud Ducré, quand il parle comme ça. Il est tellement puissant, je sens la puissance qui jaillit.
Et encore, il est habillé.
Et encore.
Mais je vais vous faire la voix masquée aussi.
Pour l'instant.
Bon, ça fait longtemps que je me prostitue. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens connus, j'ai eu beaucoup de stars, mais ça a été pour moi très difficile de me prostituer tout le temps.
Ah, c'est Patrick Sébastien, je l'ai reconnu.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.